Nintendo Master.
Bonjour et bienvenue dans le 32e podcast de Nintendo Master. Un podcast exceptionnel, j'ai envie de dire, consacré peut-être à un des développeurs qui a, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, a peut-être le plus marqué mon expérience de jeu vidéo.
Non.
Ça mérite d'être clair. Bon, bah, je serai peut-être le seul défenseur. Oui, on parlera de Rareware qui avait marqué l'époque, surtout de la Super Nintendo, Nintendo 64, on en reparlera. Bibi est là, salut Bibi, ça va bien ?
Ça va bien, et toi ?
Ça va très bien, Cryo est là, ça va bien ?
Ça va bien, et vous, messieurs ?
Oui.
Bah écoute, j'espère que t'auras plus d'entrain tout à l'heure, Cryo, pour parler.
Ah, mais c'est un peu rare.
Hein. Oh, oh.
Yo mama.
Elle était pourrie.
Oui, alors j'en profite aussi, hein, je m'excuse alors, parce que j'ai reçu des messages, on m'a repris effectivement parce que j'ai fait une erreur et c'est pas la première fois, le jeu compte en perspective n'existe pas, c'est le jeu compte en boîte développé par Intelligent System qu'on trouve sur DSiWare.
Tu fais la pub maintenant.
Ah bah oui, exactement, donc je remets les choses en place et à l'avenir je ne ferai plus l'erreur, promis. Clem et Lucas, je ferai l'effort, promis, voilà. Je ferai plus.
Faut noter ça.
Voilà, ouais, faut noter. et après le ressortir quand il en ira.
Bon, évidemment, ça nous empêchera pas de faire les jeux de la semaine. Qui dit Carus alors, Bibi ?
Oui.
Ah, mais.
J'ai le droit de rien dire donc. Je dis oui.
Voilà, exactement. On va avoir ça tout à l'heure. Tu vas nous dire tout ce que t'as pensé du jeu. Tu l'as fini ou pas ?
Non. Ah, non, d'accord. Parce que je l'ai eu que très peu de temps et j'ai pas eu le temps encore de le torcher.
D'accord. T'as joué combien de temps ?
6 heures de jeu, d'accord, je suis à un peu plus d'un tiers du solo.
Ah, ça permettra d'avoir tes impressions sur le jeu, les questions des membres, le Nintendo Game, et évidemment, avant ça, on commence par les news. Alors, on se posait la question au podcast dernier, est-ce que Rayman Origins allait sortir ou pas ? Et on a eu un élément de réponse alors, Cryo ?
Ouais, donc si vous regardez dans vos magasins, vous ne trouverez pas Rayman Origins version 3DS, puisque Ubisoft a annoncé, 3 jours après la soi-disant date de sortie, a annoncé que le jeu était retardé au 8 juin prochain sur 3DS. Donc voilà, merci Ubisoft de nous avoir prévenus.
C'est alors quelle est la raison
Aucune raison n'a été dévoilée. Et donc voilà, on va falloir attendre et on se demande un peu l'utilité de cette version parce que arriver des mois après.
Peut-être des soucis du coup à convertir le jeu sur la petite portable Nintendo. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas imaginé que ce serait aussi compliqué.
Ouais.
Je trouve ça bizarre quand même parce que c'est vraiment à quelques jours seulement du lancement prévu. Pour moi, le jeu il était déjà en production quoi, pour le lancer en temps prévu. Donc je sais pas ce qui a poussé Ubisoft à changer sa date, mais.
Le multijoueur n'est pas disponible, c'est ça ? Ouais. Donc peut-être, voilà. Peut-être un online, peut-être qu'il prépare une surprise.
Ou pas, tu peux toujours y croire. Hein. Alors on se souvient du One Piece Unlimited que Cryo t'avais testé. Hein,
ouais. Unlimited.
Unlimited, où il manquait en gros la moitié du jeu.
Hein, voilà, amputé du deuxième jeu en fait, voilà, donc la moitié, exact.
Et alors il y a un second volet qui débarque, Bibi ?
Alors il est déjà débarqué au Japon, bien sûr, puisque c'était en pack le 1 et le 2 pour un prix assez doux, en plus,
dans la même cartouche.
Semble,
hein.
Dans la même cartouche.
Pour le prix d'un, voilà.
Et chez nous, bien sûr, on avait eu droit seulement au premier pour des limitations de stockage dues aux voix, doublage, machin, tout ça. Et le Peggy australien vient d'enregistrer donc One Piece Unlimited, on pense, Cruise 2.
Voilà, c'est une version pâle, donc. À mon avis, ça arrivera chez nous, je pense.
Oui, voilà, donc ça arrivera chez nous, mais c'est surtout que ça arrivera au prix fort, sûrement, donc 40€, voire 50€ dans certains magasins.
Ah, ils le donnent pas ? Moi, je pensais qu'ils allaient le donner.
Et non, malheureusement, apparemment, ils ont bien envie de le vendre.
Bah, les fans de One Piece comme toi, Cryo, l'achèteront, non ?
Je l'achèterai pas du tout. Bon. Déjà que le 1 est pas super, il faut le dire, donc. Voilà, non, c'est un peu abusé de la part de Namco Bandai, quoi.
Surtout que si vraiment ils avaient eu un problème et qu'ils n'avaient pas pu le proposer en deux versions, à la limite, ils l'auraient proposé à 20, voire 29€, et ils auraient amené la deuxième partie pour un même prix, du coup, on n'y aurait pas trop perdu. Mais là, c'est vraiment vouloir raquer pour raquer, 40€ les deux, enfin, 40€ chaque, donc 80€ les deux, voilà, quoi, ça sent l'argent facile.
On avait évoqué une suite pour Epic Mickey il y a 2 semaines, c'était le scoop Nintendo Master.
Ouais, et bah là c'est confirmé, Epic Mickey 2, The Power of Two, sortira sur toutes les consoles de salon, donc Wii, 360 et PS3. Aucune version n'a été confirmée pour l'instant sur Wii U. Et donc bah voilà, ça reste dans la lignée du premier opus, mais avec la possibilité de jouer en coopération avec Mickey et Oswald. Donc voilà, ça peut être très sympathique. On a vu une vidéo et ça reste vraiment dans la lignée du 1.
La vidéo, c'était une version HD ou une version Wii?
Je pense que c'était une version HD. Hein, mais voilà, la différence m'a pas choqué. Donc voilà,
à voir. C'est plutôt bon signe. C'est en tout cas la même équipe qui s'occupe, c'est celle de Warren Spector.
Voilà, Junction Point. Désolé de mon accent. Et donc voilà, non, ça sera dans la même lignée avec une coopération accentuée. On sait également, d'après le Nintendo Magazine français, donc en rapport peut-être avec l'événement qui va se passer mardi prochain, là où on est invité, donc voilà, on sait qu'une version 3DS serait en développement. On sait pas si c'est confirmé, mais d'après le Nintendo Magazine, c'est sûr et certain.
Ça sort à la fin de l'année ?
Ça sort en automne prochain, ouais, donc à la fin de l'année.
D'accord, donc ça va être vraiment très proche de la Wii U, hein, c'est voilà. Vraiment...
Pour l'instant, rien n'est confirmé pour la Wii U. Il faudra attendre, et puis pour la version 3DS, on verra bien.
Alors, on en avait parlé la semaine... Alors, j'en ai un peu marre, hein, des fans de Primus Lee, hein. Vous avez vu ça ? À chaque fois, je mets
C'est une série, quoi.
Exactement, mais on en avait parlé donc la semaine dernière, l'eShop et ses fameuses cartes et tout... Bon bah là alors il y a du nouveau avec GameStop.
Ouais, GameStop, donc la plus grande enseigne de jeux au monde, enfin plutôt aux États-Unis, donc qui détient Micromania chez nous. Donc apparemment se mettrait à vendre, on l'a vu sur internet, se mettrait à vendre des jeux eShop. Donc voilà, c'est un peu bizarre comme système. Ils essayent peut-être de survivre au dématérialisé. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Peut-être
donc
que
j'imagine
bientôt...
que on va sur le site de GameStop. On télécharge un code.
Voilà, c'est ça.
Et après, on met le code sur eShop.
Apparemment, c'est comme ça que ça marche. Après,
alors, mis à part se compliquer la vie.
Quelle est l'utilité, franchement? Surtout si les prix sont les mêmes, à quoi ça sert de s'embêter, hein, pour être poli, à aller sur internet, machin, payer par carte bleue alors que tu peux le faire sur la 3DS direct, télécharger.
Peut-être qu'ils le font aussi en magasin. Ça, on sait pas, le faire en magasin, ça aurait peut-être plus d'intérêt pour eux, et surtout.
Et peut-être plus d'intérêt. Excuse-moi de te couper. Vas-y. Plus d'intérêt pour justement, on en avait parlé, les jeunes qui peuvent pas acheter via des cartes bleues.
Ouais, c'est sûr.
Les jeux e-shop, là, ils pourraient peut-être les acheter en magasin contre de l'argent, machin, tout ça. Mais sinon, si c'est que de l'internet, là, je vois.
Peut-être avec un programme de fidélité, si vous achetez
trois jeux
e-shop,
le quatrième offert.
Exactement, ouais, peut-être des offres de ce genre.
Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'ils procèdent pour pas couler dans très peu de temps.
Oui, puisque aux dernières nouvelles, le game va extrêmement mal. Bon, on avait déjà des retours comme ça. Mais apparemment, la liquidation est plutôt proche.
Ouais, même un rachat carrément.
Ou alors
on
ne
sait pas trop encore, mais ouais, ça va mal pour Game. Donc ça, voilà, on rebondit un peu sur cette news pour en parler. Mais je pense que c'est l'avenir un peu des magasins de jeux vidéo. Vendre des codes pour les jeux dématérialisés.
Ouais, c'est un peu triste. Hein. Rareware. Plutôt rare, hein, on a tendance à utiliser beaucoup ce diminutif. Alors, pour les plus jeunes, ça n'évoque pas grand-chose, mais c'est vrai que pour les durs de la vieille, les vieux comme nous...
ah oui, qui ont du poil au menton.
Ouais, c'est période 64, Super NES, tout ça.
Donc, c'est vrai que, on va dire que, je dirais même que la période 64, sans les jeux Rareware, ça aurait été un peu le désert. Nintendo s'est beaucoup appuyé sur cet éditeur qui est devenu un seconde partie. On va évoquer tout ça dans cette histoire incroyable, Rareware, comment Rareware a existé, comment Rareware s'est rallié à Nintendo, comment ils se sont déchirés. Oh là là,
les feux de l'amour.
Limite la larme à l'œil là.
Ah mais c'est vraiment les feux de l'amour cette histoire. Et puis on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Alors c'est qui a fondé Rareware?
Bon, on va commencer par une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est les frères Stemper donc qui ont créé la société en 1982, donc au début des années 80. Elle s'appelait à l'époque HB Computer and Graphics.
Alors très simple hein, de nom.
Voilà,
pour se mémoriser.
On va l'appeler ACG, hein, ok. Donc voilà, donc c'était Chris, un des frères, donc étudiait à l'université et s'est dit que la programmation était faite pour lui. Donc voilà, il a décidé de quitter ses études et de créer sa boîte de développement de jeux.
Est-ce que c'est un mot? Alors du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut réussir dans le jeu vidéo, en gros, il faut lâcher les études. Ouais. D'ailleurs, plein cours, pas avoir son diplôme et monter sa propre boîte.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les collégiens.
Donc voilà, ensuite, juste après leur création, en 1983, ils décident de lancer leur premier jeu, donc sous l'appellation Ultimate Play the Game, plus connu sous le nom Ultimate, hein, parce que bon, leur nom de société HB Computer and Graphics, c'était pas trop ça. Donc voilà, ils ont décidé de mettre une sorte d'appellation qui fait entre guillemets un petit slogan sympathique, donc les jeux Ultimate. Donc voilà, le premier sortira en 1983, comme je l'ai dit. Il s'appelle Jetpack. Voilà, c'est pas trop connu, on va dire.
Bah ouais, mais c'est quoi, c'est un jeu de...
Bah, c'est un jeu de tir pour la ZX Spectrum, pardon.
Donc, c'était même pas des consoles de jeu à l'époque, hein, c'était des micro-ordinateurs.
C'était pas considéré comme une NES par exemple ou autre Super NES. Donc, mais ce petit jeu, Jetpack, a connu quand même un petit succès sympathique pour l'époque, évidemment. Donc 300 000 exemplaires vendus pour un premier jeu, je trouve que c'est vraiment pas mal.
Ouais, c'est clair.
Surtout à cette époque du jeu vidéo, parce que je pense pas que ça c'était autant étendu au niveau de la population et tout ça, donc je pense qu'ils pouvaient être contents d'eux.
Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont enchaîné en 1984, donc un an après, avec Knight Lore. Donc c'est le tout premier jeu qui proposait un univers en 3D avec une vue isométrique.
Déjà, Rare qui se lance des défis techniques, voilà. Qui
à
fait dans
l'époque,
les...
c'était quelque chose de plutôt incroyable.
Alors, bien si aujourd'hui c'est absolument ridicule. Hein.
N'essayez pas de chercher des screens sur Google. Hein,
La NES était déjà une sacrée révolution par rapport à ces jeux-là. Hein. Donc c'est largement en dessous d'une NES. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très 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 simpliste et très basique. Hein.
Donc voilà, suite à ce succès, ce succès incroyable, hein, donc ils développeront d'autres jeux. Est-ce qu'ils leur vaudront le titre d'être le premier développeur de jeux au Royaume-Uni? Donc voilà.
Alors c'est vrai qu'on l'a pas dit avant, mais Rareware n'est ni japonais et
ni
américain,
américain.
Ce qui est quand même assez original pour un partenaire de Nintendo finalement.
Ouais, puis même à notre époque, c'est pas courant, hein, les studios européens comme ça qui ont une grosse notoriété à part Ubisoft. Même si maintenant on les casse presque en Amérique. Mais ouais, donc pour l'époque déjà, ça devait être quand même quelque chose. Je pense qu'ils n'étaient pas nombreux au Royaume-Uni, donc ils ont atteint le titre un peu facilement. Mais bon, apparemment ils sortaient des jeux de qualité, donc la notoriété n'est pas volée non plus.
Alors peut-être qu'effectivement ils ont gagné en notoriété, mais en tout cas, ils sont restés extrêmement discrets, quoi. C'est que même avec leur succès, il y a eu une vraie communauté qui s'est bâtie autour des jeux Ultimate. C'est que finalement ils ouvrent on les voit jamais, ces frères Stamper, quoi. On les voit
on a rarement vu leur tête, pas de présentation à des événements, à des salons par exemple, pas d'interview non plus. Donc voilà, c'était vraiment des gens discrets, ils faisaient leur jeu. Ce qui leur importait, eux, c'était surtout l'avis de la presse, d'avoir des bonnes notes, comme il le disait, comme disait Tim Stamper, un des frères. Donc voilà, c'était des personnes assez réservées, mais du moins qui faisaient du beau boulot. Je pense que c'est ça qui comptait.
C'est bien, c'est plutôt cool qu'ils se soucient effectivement de la qualité de leur jeu, quoi.
Ouais, enfin c'est plutôt moins cool qu'ils se soucient plus de la presse que les joueurs.
Bon, alors c'est bien tout ça, mais Nintendo, là, ça serait cool quand même de parler un moment de Nintendo. Alors ça y est, elle arrive, la NES, là.
Bah, en 1985, la NES est arrivée et les frères Stampers se disaient être arrivés en fait au bout de la ZX Spectrum au niveau des capacités techniques, tout ça. Ils pouvaient pas aller au-delà de leur petit jeu 3D isométrique dont ils étaient très fiers. Et la NES a retenu leur attention. C'est pour ça qu'ils ont décidé de créer une masse de jeux pour la console, histoire d'en tirer profit. Alors ce qui est amusant, parce que juste avant, ils te disaient, nous ce qui nous intéresse c'est de faire des très bons jeux que tout le monde aime et tout ça. Et juste après, sur la NES, ils ont pondu pas moins de 40 jeux sous le label Rare. Donc voilà, ça y est, le nom est posé. Et donc 40 jeux en 4 ans. Je sais pas ce que ça vous évoque, mais...
Alors moi c'est simple, hein, honnêtement, déjà j'ai aucun souvenir de jeu Rare sur
NES. On a une petite liste là devant les yeux, mais bon, ça servirait à rien de vous les
donner. 40 jeux en 4 ans?
Ça fait du un peu moins d'un jeu par mois.
Quasiment.
Ouais, comment tu peux sortir un jeu par mois, quoi?
C'est ça, c'est juste avant ils prônent la qualité, mais là, en un mois, tu peux pas faire un jeu de qualité sur NES... qui dure longtemps avec une aventure épique, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment...
D'ailleurs, il y a un ancien développeur de chez Rare, Pickford, il s'appelle, je crois, et qui dit, alors, les frères Stamper souhaitaient sortir le plus de jeux que possible pour profiter du succès de cette console. Donc voilà, ils se disaient, tiens, voilà, on a vraiment...
Vous avez peut-être besoin d'argent.
Il faut y aller.
Oui, voilà, ils avaient un système, la NES, là, qui se vendait comme des petits pains, qui commençait vraiment à faire parler d'elle un peu partout. Donc ils se sont dit, on va se faire un peu d'argent dessus, donc... à mort la qualité, on s'en fout, on balance. Mais c'était, après on le saura jamais, peut-être dans une optique de ramasser beaucoup d'argent histoire de proposer par la suite des jeux plus ambitieux.
Ouais, ça... mais alors attends, parce que Rare, mais alors Ultimate, là ils sont devenus quoi
Alors Ultimate, en fait, ils ont décidé de revendre ce label à une société américaine et ils ont fait Rare par la suite. Mais avoir juste un label, ça fait pas créer des bons jeux, ça les fait pas non plus vendre. Donc Ultimate Play the Game a bidé et s'est retrouvé dans l'oubli.
Ça, j'aime bien ça, les gens qui rachètent juste un nom sans racheter le studio, mais en gros ils ont revendu le nom finalement. J'imagine que voilà, et comme tu dis, les gens ont voulu se dire tiens, avec ce nom-là, on va vendre plein de jeux. Puis en fait,
oui, voilà,
Ultimate est tombé dans l'oubli.
Quand il n'y a pas les vrais créateurs derrière, forcément, bah ça tombe quoi.
Moi, je pense que Nintendo, enfin pas Nintendo, mais Rare a voulu développer plein de jeux car Nintendo leur a fait confiance. Donc voilà, ils ont réussi à les.
Voilà, ils ont en fait réussi à obtenir une licence de Nintendo, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était le fameux Seal of Quality
qui
voulait
plus.
Encore dire si il existe, mais il veut plus rien dire aujourd'hui. En fait, c'était pour empêcher que trop de développeurs pondent des bouses sur sa console et qu'elle se mette à faire un crash comme l'Atari et les consoles comme ça, avec le crash d'E.T. notamment, qu'on a bien connu. Mais malheureusement, Nintendo s'était un peu planté vu qu'ils ont produit un peu, j'ai pas envie de dire 40 bouses, mais 40 jeux insignifiants en seulement 4 ans, donc bon, preuve que la licence déjà avait ses failles.
C'est vrai, j'imagine que Nintendo s'était basé sur leurs précédents jeux finalement.
Oui, voilà,
et
sûrement.
Une fois qu'ils ont donné la licence, finalement, en arrière, ils se sont dit ouais, c'est cool, on a une licence. On est un des rares studios, enfin, des quelques studios au monde à avoir une licence pour développer des jeunesses. Et puis, vas-y, on va y aller, on va tout ratisser.
Oui, voilà,
un jeu
c'est
par
ça,
mois.
En fait. Hein. C'était vraiment le profit à gogo durant cette période, parce que même quand Nintendo annonçait le successeur, la Super Nintendo, ils étaient encore en train de développer à l'arrache leur jeunesse. Ils devaient se dire avant l'arrivée du prochain, allez, on encaisse les derniers sous qu'on peut. Donc voilà.
Mais au moins, l'arrivée de cette nouvelle console, je pense que ça a remis les idées en place aux frères Stamper dans leur façon de retravailler.
Ouais, complètement, parce qu'à partir de ce point-là, Rare va décider de changer la façon de créer des jeux. Donc ils vont repartir plus vers les bases, en fait, créer du bon jeu. Et avec la Super Nintendo, qui est une console quand même plus puissante, hein, on va dire deux fois plus puissante grossièrement que la NES, ils vont investir en fait beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent dans des nouveaux outils pour programmer de façon plus efficace et surtout apporter toujours un plus que côté technique.
Le fameux côté technologique cher à Rare.
Cher au début de Rare, en tout cas, ouais. Donc voilà, ils reprennent justement cette idée de défi et ils vont s'équiper de la station Silicon Graphics. Qui était
C'était pour Hollywood ça à l'époque.
Voilà, c'était pour Park, les gros films hollywoodiens et ça coûtait la peau.
C'était surtout
du derrière.
Ouais, et puis c'était surtout pas fait pour du jeu vidéo quoi. Enfin, les mecs ils s'équipent de trucs qui font des
de
images
trucs,
incroyables.
En images de synthèse 3D tout ça pour une console 16 bits qui proposait Super Mario World.
Ça montre bien quand même qu'avec ses 40 jeux NES précédemment, ils voulaient se faire quand même du pognon pour s'acheter.
Ah oui, parce que
ça prouve qu'ils ont réussi à s'en faire, parce qu'on peut sortir 42 et tout bide. Hein. Mais non, là ils ont vraiment réussi à faire du profit et donc à acheter la fameuse station. Super cher.
Ouais, enfin, c'est bien d'avoir la station, mais alors après, tu fais comment pour mettre ça dans la Super Nintendo
En fait, Rare s'est vraiment concentré sur leur nouvelle station, histoire de comprendre les principes, tout ça, et essayer de l'inclure dans le jeu vidéo. Donc, durant cette période, ils ont sorti très peu de jeux, ils ont arrêté leur folliness. Ils en ont sorti seulement 3-4, c'est ça, sur Super Nintendo.
Ouais, c'est ça.
Bon, attends, sur Super Nintendo, Mega Drive.
Tu passes de 40 à 3 jeux.
Voilà.
En 3 ans, enfin,
c'est justement qu'il y avait sûrement Anguille sous roche, et donc ils ont. En fait, ils avaient pour but de réussir à intégrer de la 3D précalculée dans les jeux, et donc dans la Super NES. Donc un défi qui peut se révéler complètement fou à l'époque, parce que la Super NES, même si on l'aime beaucoup, c'était pas non plus la pointe de la technologie. Et puis finalement, ils finiront par réussir à créer un prototype de cartouche qui permette ce genre de graphisme, et ils vont tout de suite le proposer au grand Manitou, à Nintendo, qui sera très impressionné par la démo technique présentée. Et truc assez fou, sûrement pour l'époque, mais même pour la symbolique, Nintendo rachète aussitôt 25% de la compagnie, puis 49%.
Ils ont tellement été impressionnés par Rare qu'ils deviennent Nintendo devient en 1995 le actionnaire majoritaire de la firme, donc complètement racheté.
C'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre là, c'est vraiment
voilà,
là...
Mais je pense que c'est une volonté Nintendo de vouloir contrer l'arrivée de Sony sur le marché et de sa PlayStation, donc voilà, Rare proposé.
Ouais, surtout que Nintendo n'était pas du tout prêt pour la succession, quoi. C'est la 64 était à la bourre.
C'est clair, la 64 est arrivée en 1997, il me semble. Et donc voilà, donc ils étaient à la bourre, mais Rare a proposé la chose qui a donné un coup de jeune, un coup de boost à la Super Nintendo qui techniquement arrivait vraiment à ses limites, et donc voilà. Ouais,
surtout,
arrivé.
Quand tu voyais les graphismes de la PlayStation, tu faisais waouh, wow, il y a une différence entre les deux.
Grosse différence, c'est clair.
Bah, c'était l'arrivée de la 3D, donc forcément, même si c'était pas super beau, hein, mais ça impressionnait, on se disait, oh, ça y est, on voit dans un environnement 3D des personnages en polygone tout moche. Donc,
clair,
forcément, ils avaient besoin de ce petit plus qui ferait quand même que la Super Nintendo n'arriverait pas à ce résultat, mais au moins qu'il y aurait une évolution qui amènerait quand même quelques joueurs à jouer encore à la Super NES.
Donc, Rare devient seconde partie de Nintendo. Alors, la définition, hein, juste pour être clair, seconde partie, ça veut dire qu'en gros, le studio n'appartient pas totalement à Nintendo. Mais l'éditeur, du coup, là, Rare, se trouve obligé, enfin contraint, on va dire, de développer uniquement pour Nintendo, alors qu'ils ont fait des jeux Mega Drive quand même, il y a quelques jeux à côté pour la concurrence. Là, ça y est, hein, c'est Nintendo. Hein.
Alors, et puis voilà, Nintendo leur propose également, ils se mettent autour d'une table et ils disent bon voilà, on a tout ça à vous proposer, toutes ces licences, à vous d'en choisir une et de nous faire péter la Super Nintendo, quoi. Et donc c'est là que Rare va se faire connaître en choisissant Donkey Kong. Et en 1994, Donkey Kong Country sortira et deviendra le premier titre à utiliser la 3D précalculée sur une console de jeu de salon.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, bon, on peut pas trouver peut-être ça extraordinaire, mais quand à l'époque, on passait de... évidemment, ça avait rien à voir, hein, artistiquement, techniquement, mais de passer de Super Mario World à Donkey Kong Country, on a l'impression qu'il y avait une génération d'écart, quoi.
C'était exactement la même console, il n'y avait pas de vis caché. Mais ouais, donc voilà, Donkey Kong Country, premier gros succès de Rare. Et surtout, c'est là qu'ils se sont vraiment fait connaître, on va dire, au monde entier.
Et puis, c'est vrai qu'on souligne effectivement ce côté technique, parce que c'est Rare à bosser énormément sur cet aspect-là, mais au-delà de ça, le jeu est un super platformer, quoi. Ouais.
Oui, voilà, il n'a pas que le côté technique pour lui, il a aussi son gameplay. Bon, il y a quelques petites glissades dans les trous à cause des graphismes un peu spéciaux, mais c'est
la
vraiment...
La course en chariot.
Voilà, ils ont réussi à proposer non seulement un jeu de qualité sur le plan technique, mais aussi sur le fond, le gameplay, un peu à la recette Nintendo, en fait, j'ai envie de dire. Et ça a fonctionné, ça a eu le succès qu'on connaît, 9 millions d'exemplaires vendus pour un titre d'un développeur anglais.
Ah ouais,
je pense
vrai.
Que personne n'avait encore réussi à faire ça à cette époque. Hein.
Ouais. Et puis bah, ça, c'est quand même le second titre de la Super Nintendo, le second titre le plus vendu de la Super Nintendo.
Ah ouais, parce que le premier c'est lequel ?
Le premier c'était Super Mario World.
Super Mario World c'est genre 21 millions.
Donc voilà, après évidemment Nintendo leur a proposé, je pense, de sortir deux petites suites, donc c'est ce qu'ils feront en 1995 et en 1996, donc voilà, un petit Donkey Kong Country chaque année.
Ouais, alors bon, c'est vrai que c'est un peu enchaîné, mais ceci dit, enfin...
Le 2 avait été extrêmement apprécié. Mieux que le premier.
De la presse et des joueurs, ouais, quand on demande quel est le Donkey Kong Country qui a le plus, c'est souvent le 2 qui est mis en avant. Alors moi, j'ai quand même un petit affect pour le premier, parce qu'il proposait un univers peut-être un peu moins dark, parce que le 2, c'est quand même assez sombre, pas glauque, mais bon, voilà, c'était autrement. Mais le 2 a vraiment une renommée au niveau de son OST, qui est phénoménale, ses graphismes toujours plus poussés... Sa coopération toujours entre deux singes, les nouvelles possibilités de gameplay.
Ah, c'est que Donkey Kong il disparaît
Oui, bah il s'est fait enlever, ça y est, c'est Nintendo qui est revenu à la charge. Hey, dans le premier, il n'y a pas de personnage qui se serait fait enlever là. Hop, hop. Mais par contre, le troisième, bon, c'est un petit aparté perso, moi je ne sais pas si vous y avez joué, mais moi j'ai
beaucoup
l'occasion
de l'apprécier. J'ai que les deux premiers, ouais.
Déjà, ils ont changé un peu la map, en fait, on peut naviguer dedans, c'est une sorte d'open world de très loin. Et je sais pas, je pense qu'ils ont voulu pousser le bouchon trop loin avec Donkey Kong Country. Il y avait plus cette patte, il y avait plus ce grain de folie. Voilà, ça s'était un peu perdu. Donc voilà, c'était mon avis perso. À vous de me dire si vous êtes d'accord.
Ouais, écrivez dans les commentaires.
Dans les commentaires.
Votre Donkey Kong Country préféré.
Si vous clairement. Dites tous le 3, bah, vous avez le droit de rager. Écoutez, hein.
Et dites pas Returns, hein, par contre.
Oui, effectivement. Puisque ça, c'est beaucoup plus tard et par un autre studio. Et à noter qu'ils utiliseront aussi leur technologie. Bon, bah, s'il faut la rentabiliser, cette technologie, finalement, il n'y aurait que 3 jeux.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr que, bon, je sais pas combien ça leur coûtait, leur Silicon Graphics Station. Mais bon, 3 jeux, bon, ils ont vendu des paquets. Et il y a le Killer Instinct, le jeu de combat.
Oui, un jeu de combat qui était une licence comment on dit,
nouvelle.
Une licence originale de Rareware, donc qui s'était un peu détachée de Donkey Kong, tout ça, pour proposer un jeu de combat pareil avec ce système de sprite 3D précalculé qui rendait ma foi très bien aussi.
J'avais adoré ce jeu, hein, de combat. Peut-être un des jeux de combat que j'ai le plus joué. Bon, il faut dire qu'après j'ai eu la 104, donc il n'y avait pas tellement de jeux de combat dessus.
C'est non, c'est aussi. Sûr.
Mais non, c'était vachement bien. Hein. Alors, moi, avec la cartouche noire, pour ceux qui s'en souviendront, la cartouche noire de Super Nintendo. C'était la.
Alors moi j'ai joué, mais j'avoue que j'étais un peu plus Mortal Kombat 2. Mais après, c'est chacun ses goûts. Hein.
Ouais, on n'a pas les mêmes références. Bon, alors finalement, Rareware, allez, on va dire qu'ils font. Enfin, franchement, ils sauvent la Super Nintendo en fin de vie et permet un peu comme ça à Nintendo de prendre son temps finalement avec la console suivante, ouais, la Nintendo 64.
Et puis on va le voir par la suite, mais de sauver aussi la Nintendo 64. Donc, on en parlera, mais à part Rareware, la console aurait eu de gros soucis. Mais bon, ça commence déjà en 1995. Avec GoldenEye avec Nintendo qui a les droits du film GoldenEye 007 sorti dans les salles de cinéma, donc
qui se dit tiens, qui va développer ça,
et ben voilà, c'est Rareware. Donc
alors là ils ont eu un coup de génie déjà de choisir le bon, parce que putain, ça se trouve ça aurait eu aucun rapport, voilà, si Nintendo a développé ça et pas l'avait pas donné à son studio.
C'est clair, au départ de toute façon le jeu était conçu pour être un jeu de tir sur rail, donc un rail shooter. et puis il deviendra finalement le FPS qu'on connaît, donc sur 64.
Parce que alors GoldenEye aujourd'hui, c'est vrai que pour tout le monde c'est une référence du FPS. Alors quand on le voit évidemment avec les yeux d'aujourd'hui, on se dit bon, c'est un peu ridicule, c'est un peu
dur à contrôler,
exactement, c'est moche, finalement les mécaniques sont pas très intéressantes. Mais avant ça, qu'est-ce que c'était? C'était Doom,
ouais.
Il y avait Quake déjà, je crois.
C'était des jeux 2D, 3D quoi, c'était...
Et puis avec des mécaniques de jeu, c'était j'avance, je tire, j'avance, je tire, j'avance, je tire.
Là, il y avait vraiment...
Une porte, ouais.
Là, c'est vraiment les FPS qu'on retrouve aujourd'hui. Quoi.
Ah
encore.
Ouais, là, vraiment, il a posé
vraiment,
les bases,
voilà,
du FPS.
Le souci du level design, d'avoir
missions,
un vrai scénario en fait dans chaque mission, tout ça, qui nous amenait à peut-être faire le stage de plusieurs sortes, en fait, de plusieurs façons. Et c'est pour ça, je pense qu'il a eu cette notoriété aussi grâce à son fameux mode multijoueur.
Ah ouais, excellent.
Si fameux, joué,
on
mais...
l'a déjà évoqué dans le podcast, hein, mais voilà, le temps passé. Surtout avec la Nintendo 64 qui permettait de jouer à 4 en même temps, quoi.
Et puis il y avait 40 000 modes dans le jeu là, donc. Donc
oui, voilà,
vraiment
y avait,
excellent.
Il y avait qu'avec les mines, qu'avec les couteaux, jouer avec des grosses têtes, enfin il y avait les passages secrets dans les arènes. Enfin, moi j'en ai un très très bon souvenir.
Ah, c'est clair, c'est le jeu qui a instauré. Ce qu'on retrouve, la plupart des trucs qu'on retrouve dans les FPS aujourd'hui, on les avait dans GoldenEye en moins bien évidemment, mais pour l'époque c'était vraiment incroyable. Et puis bah évidemment le jeu a été un succès de toutes parts, un critique commercial avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus.
Quand on sait que la 64 ce n'est vraiment pas beaucoup vendu, c'est vraiment
voilà,
un exploit
64,
de vendre.
Je crois que c'est 32 millions d'exemplaires vendus.
Ça veut dire qu'imagine qu'il y a à peu près une personne sur 3 qui a
joué
à
GoldenEye. Ouais.
Bah, tout le monde s'en souvient en tout cas.
Ah ouais, et puis alors voilà, un rare top de sa forme. Alors, et puis alors putain, sur Nintendo 64
le jeu est sorti en 97, par contre faut le signaler, il est pas sorti en 1995.
Ah oui, effectivement, c'était le début, les prémices au moment où ils ont eu les droits pour le film. Sur Nintendo 64, alors il y aura eu plein de jeux. Il y a Diddy Kong Racing peu de temps après le lancement, il y a eu Killer Instinct qui est revenu dans une version Gold, donc c'était juste un remake vite fait.
Je pense que c'était pour la sortie de la console en plus, enfin il a suivi la sortie de la 64.
Exactement. Alors et Banjo-Kazooie. C'est marrant parce que à la période 64, il y avait toujours ceux qui étaient un peu plus du côté Nintendo et ceux qui étaient un peu plus du côté Rareware. Parce que finalement, c'était toujours des mêmes types de jeux. Donc il y avait Mario Kart et Diddy Kong Racing, c'était les mêmes types de jeux, mais avec des différences. Diddy Kong Racing avec son mode histoire, ça je trouvais ça absolument génial quoi.
C'était excellent. Ouais.
T'avais des boss, t'avais des un hub comme ça, un peu comme dans Mario 64. Finalement, tu choisissais tes cours, tu récupérais des pièces, tu débloquais des trucs. T'avais plusieurs types de véhicules, ce qu'on trouve peut-être un petit peu aussi avec Mario Kart 7 aujourd'hui,
d'une certaine façon. Ouais. Et puis aussi, t'as fait allusion à Mario Kart, Diddy Kong Racing. Il y avait pour moi Mario 64 et d'un côté Banjo et Kazooie où tout était assez dans la, je sais pas comment on pourrait dire ça, dans la coopération de deux personnages, volait, un qui était sur le sol. Voilà, fallait réussir à passer les énigmes en prenant en compte ces deux fonctions. Bon, c'était vraiment vraiment un très très bon jeu. Banjo et
mais
Kazooie.
Moi, je dirais même que Mario 64 a le mérite d'avoir été le premier et d'avoir tout instauré dans ce qui est plateforme 3D. Personnellement, je trouve que Banjo-Kazooie est plus abouti, notamment en termes d'univers. Ouais. Il y a visuellement, artistiquement, ça déchirait. Et après, quand on passait de Banjo-Kazooie, vous finissiez Banjo-Kazooie, vous repassiez à Mario 64, mais c'était fade. C'était fade, Mario 64, c'était froid, c'était...
Et puis, il y avait aussi... Moi, j'adorais les personnages, ils avaient un charisme.
Il y avait un humour.
Ouais, voilà, il y avait une espèce de complicité entre les deux personnages qui était vraiment excellent. Après, bon, dans Mario il est tout seul, évidemment.
Ouais, c'est vrai.
Mais dans Banjo et Kazooie, c'était vraiment un gros coup de cœur.
Là, pour moi aussi, hein. Vraiment un gros coup de cœur. Toi, Bibi, non?
J'ai jamais joué,
ah,
donc.
Jamais joué.
Bon. Je me souviens encore dans les bornes d'essai, dans les Micromania, où tu voyais les Kazooie. Je crois que c'est Kazooie qui faisait. Qui volait, qui tenait Banjo. Moi, j'étais resté scotché et je crois que j'ai acheté le jeu directement. Juste après.
Là. Vraiment, rare. Absolument génial.
Gros succès aussi de ce jeu, un petit peu moins que GoldenEye, mais gros succès quand même.
Donc après, il y aura Jet Force Gemini. Je sais pas si vous en souvenez.
Pas joué non plus, mais.
un jeu. Bah, c'était là aussi, je trouve, un peu les prémices du jeu à la troisième personne action, TPS, comme on dit aujourd'hui. Putain, avec une réalisation béton, des musiques énormes. Alors, le jeu n'aura pas peut-être le même succès, il se vendra pas autant, et puis, bon, mais, en tout cas, une des choses aussi à noter, là, que je veux souligner, c'est quand même le Rare qui, en permanence, crée de nouvelles licences, quoi. Banjo-Kazooie, première fois, Jet Force Gemini, première fois, bon, Diddy Kong, c'est pas pareil, ils ont repris les personnages, mais il y a quand même une vraie volonté de créer des nouveaux univers, de créer des nouveaux mondes.
Ouais, et puis dans des intervalles de temps extrêmement courts, hein, c'est quelques années qui, enfin quelques années même pas, c'est une voire deux années qui séparent ces titres, donc
non, parce qu'il y avait des Noël, il y avait des Noël où Nintendo n'était même pas présent. C'était ouf, hein, la 64. Hein. Il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir autant de jeux qui sortent.
Ouais, quand on entend que Nintendo fait pas grand-chose
sur Nintendo 64, c'était une catastrophe. Les jeux étaient excellents, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en termes de rythme de sortie, c'était une catastrophe. Et des fois, voilà, Rareware était tout seul en fin d'année à supporter la 64. Quoi.
Ouais, bah, comme on a dit, s'ils n'étaient pas là, ça aurait été un peu compliqué.
Alors, ceci dit, si de façade, ça se passe plutôt bien et les jeux sont franchement bons... derrière, il y a quand même, ça commence à être un peu,
ouais, ça commence à un peu gueuler, on va dire. Donc il y a en 98 même, juste après la sortie de GoldenEye, donc voilà, les principaux développeurs de ce titre donc quittent la firme. Et même certains, une année plus tôt, ont même essayé d'aller créer leur petit studio chez la concurrence, chez Sony, avec un nouveau jeu sur PlayStation, mais malheureusement, il échouera, donc il ne sortira jamais. Donc voilà,
j'ai entendu parler.
On voit que ça bouge en interne, qu'il y a des frictions qui commencent à arriver, et puis bah voilà, ça quitte un peu le studio.
On peut noter par exemple Martin Hollins qui part pour Nintendo of America dans un premier temps, puis fondera après sa propre société Zunami. Hein, une société qui a pondu des chefs-d'œuvre, chefs-d'œuvre du puzzle gaming.
Ah, mais alors, je sais pas si vous en souvenez, ceux qui, peut-être, voilà, qui à l'époque GameCube suivaient un peu l'actualité, mais Zunami, tout le monde espérait, effectivement. Quand on dit, voilà, Martin Hollins, grand développeur de Rare, qui se casse et qui part faire sa propre compagnie, tout le monde était là, Zunami, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des chefs-d'œuvre, ils vont faire des trucs incroyables.
Au final, ils ont sorti un puzzle game.
Pour la DS, je crois.
Pour la DS, il me semble. Et depuis...
En plus, c'était il y a longtemps.
Ah
après,
oui,
quoi.
ils n'ont rien foutu, c'est pas possible. Quoi.
Et depuis, on les entend plus parler. Je crois même pas pourtant que le studio est mort, mais il n'y a rien, ou alors ils sont tellement peu médiatisés qu'ils n'arrivent même pas à nos oreilles. Donc bon, c'est preuve que Rareware était encore la place où être à ce moment-là, puisque plusieurs développeurs menés par David Dock partiront pour former le studio Free Radical, qui a déjà plus fait parler de lui, notamment avec Time Splitters, une licence très appréciée.
Plus qu'appréciée.
Adoré. Vraiment, on retrouve la folie. Enfin,
moi, j'ai retrouvé la folie GoldenEye.
Mais en multijoueur, et avec, c'était vraiment génial, ouais.
Bon, on passera sur le bid Hadze qu'ils ont fait sur PS3.
PlayStation 3, les pauvres. Ils ont été à deux doigts de mourir. Ils ont été sauvés au dernier moment. Ouais.
Ils ont été sauvés au dernier moment par Crytek, donc à qui on doit Crysis par exemple, en 2009. Et ils s'appellent désormais Crytek UK, donc pour dire que c'est en Angleterre. Donc voilà.
Alors là, moi j'ai envie de dire, franchement, là il faut surveiller quand même.
Là il faut surveiller.
Il faut surveiller surtout qu'il y a des grosses rumeurs pour Time Splitters 4. Alors ça fait longtemps qu'elles traînent les rumeurs, mais peut-être qu'un jour elles prendront vie. Sinon, juste avant le rachat par Crytek, il y a David Dock qui a quitté le studio et
qui quitte.
c'est enchaîne et qui a fondé le studio mythique Pumpkin Beach.
Ça se trouve dans quelques années on entendra parler. Bon, c'est assez récent, c'est 2009.
C'est 2009.
Donc peut-être que dans quelques années on entendra des super jeux Pumpkin
Peut-être,
Beach.
Il n'y a pas grand-chose. Pour l'instant, à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler d'un jeu du studio. Ouais. Donc.
En tout cas, en
à
interne,
suivre.
Ça montre que chez Rareware, ça commence un peu.
Il doit y avoir Anguille Souroche, il doit y avoir des tensions ou des rapports qui se passent pas très bien pour que tout le monde fuit comme ça le studio et se mange par la suite en plus.
Ouais, parce qu'avant quand même, le studio termine la 64 avec des sacrés jeux, j'ai envie de dire. Ils ont plus la licence GoldenEye, mais il y a Perfect Dark, la suite spirituelle.
Oui. J'ai pas pu y jouer, mais j'en entends beaucoup de bien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu
droit. J'ai adoré Perfect Dark. Et puis ce côté technique, ce côté novateur, il y avait pour la première fois dans le mode multijoueur, avant, vous jouez un jeu multijoueur sur console de jeu, c'était simple. Si t'avais des amis, c'était bien, si t'étais tout seul, t'étais dans la merde. Et pour la première fois, on avait des bots, une intelligence artificielle, qui contrôlait comme ça des ennemis, gérés en mode arène, comme ça.
Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé qu'ils avaient corrigé pas mal de choses moins bien entre guillemets sur GoldenEye. J'ai préféré Perfect Dark, mais
moi aussi.
Évidemment, GoldenEye restera dans mon cœur parce que tout le monde n'avait pas Perfect Dark et tout le monde avait GoldenEye, donc tout le monde joue à GoldenEye.
S'ensuit Banjo-Tooie, la suite de Banjo-Kazooie et Conker. Mais alors là, le problème, c'est que ces deux jeux arriveront vraiment sur la fin de la 64. Alors moi, en plus, comme un con, je l'ai revendu juste avant ces deux jeux, donc je m'en veux un peu, à vrai dire. Mais qui resteront en tout cas. Alors Banjo-Tooie reste encore aujourd'hui peut-être un jeu un peu qui passe inaperçu, même s'il a été bien accueilli à l'époque. Ouais, Conker. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, Conker? Mais c'est du porte-nawak.
Alors moi, Banjo-Tooie, je ne savais même pas qu'il existait avant ce podcast. Mais la grosse info, c'est Conker, donc qui n'a pas été édité par Nintendo.
Ah ouais,
déjà là, on sent vraiment.
En tout cas en Europe. En Europe,
donc c'est THQ qui s'en chargera. Donc pourquoi ça n'a pas été édité par Nintendo? Parce que le titre. Était un peu en contradiction avec la politique que vous connaissez tous de Nintendo et voilà le titre est
des gros
assez
mots,
trash, ouais.
Pagaille,
c'est, ouais.
Du vomi, du caca, du oh là là, il boit de l'alcool en permanence.
Il est bourré, il a les yeux rouges, il est shooté
au crack.
C'est
ça qui est génial avec Rare, c'est que tout ça, c'est toujours aussi lié au gameplay et tout. C'est-à-dire que quand il était bourré, t'avais plus à le diriger.
L'écran était un peu flou, on le voyait qu'il se.
Tu lances des rouleaux de PQ sur le boss des caca. Mais c'est génial. Franchement, mais c'était fou quoi. C'était complètement fou ce jeu.
Je pense que. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'ils sentaient la fin arriver, mais peut-être qu'ils se disaient ça commence à sentir un peu le roussi. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, un petit élan de créativité, qu'on se lâche un peu.
Encore une fois, c'est que être seconde partie Nintendo, c'est bien parce que forcément on est dans le giron Nintendo et on fait des grands jeux, mais c'est subir la pression, c'est subir les contraintes, pas faire ce qu'on veut.
Moi, je pense qu'il y a eu un. Nintendo, je pense qu'ils ont été vraiment surpris de la tournure de ce jeu. Ils ne devaient pas s'attendre à ça. Et ils ont dû être pris par surprise et voilà, au dernier moment ils se sont dit non, on fera pas la promo et on laisse ça à quelqu'un d'autre parce que bon, c'est pas notre
merci
politique.
À THQ au passage d'avoir édité le jeu pour l'Europe, honnêtement.
600 francs, merci.
Ouais, alors certes, ils sont gavés sur le prix du jeu, c'est, je suis assez étonné pour ça, surtout qu'il a même pas été localisé. THQ s'est dit bon, on s'en fout. Mais en tout cas, ils l'ont fait vraiment parce que Nintendo ne l'avait pas fait et honnêtement, c'est bien parce qu'on n'aurait pas pu voir ce jeu et c'est quand même grave, je trouve. Que Nintendo se refuse à quand même à éditer un jeu Rareware, c'est quand même triste. On va dire,
ouais, mais bon, c'est aussi les thématiques du jeu, quoi. C'est à l'époque Nintendo était assez réservé, il l'est encore toujours, mais un peu moins. Donc voilà, ça parlait d'alcool, de mecs bourrés qui vomissent ou de trucs comme ça. Je pense que ça allait pas avec l'image de marque, donc ils se sont dit non, on peut pas éditer ça sous notre nom parce que voilà, les familles, tout ça, ils se diraient qu'est-ce que c'est que ce jeu. Enfin voilà, quoi.
Donc comme on l'a dit, hein, la Nintendo 64, merci Rareware.
Ouais,
quand tous les éditeurs tiers vous lâchent pour aller sur la PlayStation et que vous vous retrouvez seul à développer, franchement, ce seconde partie a été d'une,
même,
d'une
y avait,
aide.
Il n'y avait pas énormément de jeux sur 64, mais bon, quand ils étaient là, c'était du lourd et c'était toujours les mêmes, quoi. Nintendo et Rare.
Alors forcément, hein, lorsque Nintendo présente sa nouvelle console de jeu, bah, on attend les nouvelles création de Rareware.
Ouais, donc avec le lancement de la GameCube, donc Rareware a annoncé lors de l'E3 2001 donc trois gros jeux qui devraient arriver, enfin qui devraient arriver prochainement sur la console. Donc c'était Donkey Kong Racing, Cameo, une nouvelle licence, et Star Fox Adventure,
qui n'était pas un Star Fox à la base vu qu'il était développé sur Nintendo 64 sous le nom de Dinosaur Planet, donc une nouvelle licence. Et Nintendo a dû se dire, bon, c'est pas très vendeur, donc on va foutre un renard dedans. Tout de suite, ça va donner du charisme au tout. Donc voilà, juste pour la petite anecdote.
Le jeu est passé du développement de la 64. Bah, ça arrive souvent, hein, finalement, qu'en fin de vie, des consoles, hop, les développements, boum, basculent sur...
On va le voir pour Cameo, d'ailleurs.
Oui, d'une certaine façon, c'est clair. Bon, alors là, la situation est au beau fixe, on a tous les jeux.
Tout va bien.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer là? Oh là, je suis en haleine là!
Et bah, alors, voilà, on a l'impression que tout va bien, les jeux sont là pour le lancement de la GameCube et tout ça. Mais à la fin de l'année, donc période de Noël, petite carte de vœux oblige, Rareware balance une carte assez ambiguë. Où, alors, on va la mettre sur le Facebook, sur la news du podcast. Donc voilà, c'est une carte où on voit. Un sapin de Noël avec des cadeaux sous le sapin.
Bon, jusque là, à vrai dire,
voilà,
rien d'extraordinaire.
Tout est normal.
Sauf que les cadeaux, donc voilà, il y a un cadeau qui ressemble à la GameCube évidemment, mais il y a surtout un gros cadeau vert avec un ruban qui forme un X, donc voilà, qui est là aussi, et on peut, si notre imagination le permet, également voir une PS2. Donc voilà, on se dit que se passe-t-il, Rare quitterait Nintendo pour une multiplateforme. Donc voilà, c'était.
Alors vous nous direz ce que vous en pensez si vous voyez la carte, mais enfin moi, enfin
ah ouais, la Xbox, c'est sûr,
c'est clair.
Je connaissais pas cette carte, mais dès que tu m'as dit oui, j'ai vu la Xbox. Voilà, celle que je vois là, moi, c'est la GameCube, même si je vois le truc, hein, la PS2 aussi. Donc c'est sûr qu'à l'époque, j'avais pas vu cette carte, moi.
Et puis la GameCube en fond en plus, quoi.
Oui, voilà, en fond, et au fond, quoi, limite enfouie sous la neige.
Donc voilà, là on se dit que forcément il y a quelque chose qui va pas.
Surtout qu'en dessous de la carte, ils disent des surprises sont...
En fait, c'est sous tous les arbres.
Des surprises sous tous les arbres. Donc voilà, c'est le grand mystère, je pense.
Surtout que des sources proches du studio affirment que le studio de développement a déjà les kits de la PlayStation 2, de la Xbox.
Ouais, alors ce qui est assez surprenant pour un seconde partie Nintendo, d'avoir des kits de développement pour les consoles concurrentes.
Peut-être cachés, ils les ont jamais montrés à Nintendo au fond du bureau.
Peut-être non, ça sent la merde, là, franchement.
Oui, puis peut-être qu'ils se disaient, de toute façon, ils savent que Nintendo allait les lâcher, donc ils s'en foutaient d'avoir des kits, ils se sont dit, de toute façon, ça ce sera peut-être utilisé pour plus tard, donc...
Donc là, pour le coup, la crainte, c'est que finalement, Rare passe multiplateforme, quoi.
Ouais, c'est la grosse crainte, et on se dit, mon Nintendo dément, évidemment.
La grosse crainte pour les fans de Nintendo, parce que les autres,
ah
je
oui,
pense
ah
qu'ils
oui,
devaient se réjouir, ils devaient jubiler, ça y est, Banjo-Kazooie chez nous, et tout ça,
ouais.
Ce qui arrivera, hein, mais pas donc, dans les circonstances voulues.
Donc Nintendo dément, bien entendu.
Mais évidemment, rien, il n'y a rien du tout, tout va bien.
Sauf que...
Ah ouais, ils sont tellement heureux avec nous.
Sauf que le problème, c'est qu'à l'E3 2002, donc juste après le lancement de la GameCube en Europe, au passage, Eh bien, aucun jeu, à part Star Fox, bien entendu, qui est prévu par Nintendo. Donc, aucun jeu Rareware n'est disponible sur le salon. Donc, voilà, on ne voit plus du tout Donkey Kong Racing. Donc, voilà, annulé, on ne sait pas. Cameo également, disparu. Donc, ouais, voilà, il y a voilà, juste Star Fox.
Là, voilà, quoi. Ça là, sent mauvais, là.
Là, on se pose vraiment de sérieuses questions. Et puis... bah voilà, la suite va. Je vous laisse dire la suite tragique pour Nintendo.
Allez, Bibi, vas-y, il faut mettre une musique d'enterrement.
Ouais,
allez.
Petite musique.
Eh oui, parce que le 24 septembre 2002, il y a Microsoft lors de son salon X02.
Ouais, ça n'existe plus, je crois, ce
non,
salon.
C'était sûrement l'équivalent du Space World de Nintendo,
ouais,
tout ça, leur petit événement personnel, qui a annoncé le rachat intégral de Rareware pour la somme de 375 millions de dollars. Donc autant dire que Microsoft a mis la main au chéquier, hein, comme ils savent si bien le faire.
Et que Nintendo a ouvert son compte en banque.
A ouvert son compte en banque de son côté.
Parce que, alors, évidemment, si Nintendo, ils sont contents d'avoir du fric qui rentre, alors merde, d'un point de vue nous, joueurs, mais alors moi je me souviens très bien quand j'ai appris ça, mais je me suis dit, mais pourquoi? Mais comment Nintendo... imaginez, hein, on est en pleine guerre. T'as ton concurrent en face, enfin ton concurrent, ton ennemi. Vous voulez mon porte-avions? Non, mais si vous voulez, je vous le donne. Hein.
C'est ma seule arme, mais je peux vous la donner.
Mais je vous la donne, hein. Ah ouais, non, mais ouais, prenez-le. Voilà, mais c'est ça. Comment tu peux faire ça, quoi?
Ah, c'est surtout qu'on sort de l'époque 64 où il y avait que Nintendo et Rare pour promouvoir la console, pour sortir des jeux dessus. Et là, on se dit, ils balancent leur seul atout. Ils se retrouvent tout seuls sur leur console. Les éditeurs tiers n'ont pas l'air de vraiment suivre, en tout cas en multiplateforme. Et après, on verra que annulation sur annulation. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va devenir de la GameCube.
Bah ouais, clairement. Et alors, évidemment, aujourd'hui, on pourrait faire le rapprochement avec... C'est comme si Nintendo vendait Retro Studio à Microsoft, quoi. Et encore, c'est même pas tout à fait la même chose, parce que Rare avait une place beaucoup plus importante à l'époque. Mais c'est vraiment, voilà, comme tu le dis,
c'est balancer son bras gauche, quoi.
Voilà, mais clairement.
D'ailleurs, cette nouvelle a beaucoup fait réagir. D'ailleurs, les principaux intéressés, dans les deux camps, on disait pourquoi on a lâché, pourquoi on a repris, qu'est-ce qui se passe. Il y a même des analyses qui viennent dans le tas.
Ah, il n'y a pas Patcher là, c'était pas
cool. Non, mais il n'était pas encore arrivé, mais il préparait ses armes. Donc Microsoft, qui venait justement de débarquer dans le monde du jeu vidéo et qui avait besoin de partenaires forts, donc eux ils se réjouissent de la nouvelle, ils jubilent, ils disent « de toute façon on sait que vous attendez les nouveaux jeux Rare parce que vous allez les adorer, tout ça ». De l'autre côté, il y a Nintendo qui dit « Rare, on a senti que c'était plus vraiment ça, ils étaient plus en phase avec notre façon de voir les choses et on se retrouvait pas vraiment dans leur dernier jeu ». Donc voilà, c'était comme ils disent... qu'ils ont lâché cette opportunité qu'est Rare pour de très bonnes raisons commerciales, donc c'était...
Ah ouais, voilà, 375 moins... millions de dollars, j'imagine, effectivement.
Voilà,
plaisir,
au moins c'est dit, et ça peut être investi justement dans des nouveaux studios ou autres. Et concernant les principaux intéressés, les frères Stamper, un discours un peu plus banal qui dit « Bienvenue sur Xbox ». Voilà, attendez nos prochains jeux, elle est géniale.
C'est un risque pour eux quand même, parce que Microsoft venait de se lancer sur le marché. Si la Xbox marchait pas,
ils auraient peut-être coulé avec la maison mère. Mais bon, Microsoft, quand même, c'est pas le dernier des gigolos. Ils ont un compte en banque bien rodé, donc je pense qu'ils y sont allés plutôt confiants. Ça aurait peut-être pas été pareil du côté de chez Sony, mais bon.
Alors, la question fatidique, qui a eu raison dans l'histoire?
Quand on voit les jeux de Rare aujourd'hui, on a tendance à dire qu'ils auraient mieux fait de rester chez Nintendo.
Alors la question c'est, est-ce qu'ils auraient fait ces jeux-là chez Nintendo? Enfin, est-ce que Rare aurait fait de très bons jeux chez Nintendo? Parce que apparemment Nintendo dit voilà, c'était plus...
Ouais. Peut-être qu'ils auraient fait, vu qu'ils font Kinect Sport, peut-être qu'ils auraient été mis sur les
sport.
Jeux, les séries Wii, etc. Quoi. Donc, on sait pas, mais moi j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné sur GameCube et sur Wii, enfin GameCube en fin de vie plutôt.
De mon côté, avec des si on refait le monde, donc ce sera toujours que des suppositions, on sait jamais comment ça aurait tourné sinon. Je pense quand même que la magie Rare se perdait légèrement au fil des années, déjà on voyait les gens partir, tout ça, au bout d'un moment l'essence aurait peut-être pu être là. Voilà, beaucoup de questions qui resteront en suspens, dont on n'aura jamais les réponses, mais on peut supposer que ça a été un peu tout qui a fait que Rare a subi le destin qu'on a connu.
Il n'y a surtout plus personne maintenant.
Oui, parce que les
Scherer qui était à l'époque la fabuleuse époque de Nintendo. Quoi.
Les frères Stamper sont partis en 2007 pour fonder sûrement un prochain studio.
C'est-à-dire que même les créateurs du studio, depuis le début, hein, qu'on vous raconte cette histoire, les pionniers, voilà. Les pionniers du jeu vidéo,
ouais, ceux qui étaient à
ils étaient encore
avant,
là, voilà, qui avaient
ils
quitté
même,
les
même
études.
Même eux ont quitté le giron Rare.
Ouais, je pense
Rare qui aujourd'hui fait les avatars sur Xbox, l'équivalent des Mii.
Voilà, fait Kinect Sport.
Kinect Sport.
Alors ouais. Là, bien sûr, on parle du moins glorieux, il y a quand même eu Banjo-Kazooie, tout ça, mais même eux, ils ont été accueillis plutôt chaleureusement par la presse, mais c'était pas Banjo-Kazooie de la 64, quoi. Donc voilà, c'est un peu décevant pour les fans, je pense, mais...
On est tous en même temps.
On peut toujours attendre.
Aujourd'hui, les licences de Rare qui sont maintenant donc chez Microsoft, honnêtement, le Banjo-Kazooie, alors on a vu, hein, c'est plus vendeur qu'avant. Perfect Dark, si un nouveau Perfect Dark sort, je crois que personne serait dupe. Hein, tout le monde regarderait d'un œil un peu méfiant.
Perfect Dark Zero.
Exactement. Hein,
qui a bidé, qui était mauvais apparemment, tout ça, donc.
Voilà, on le voit aujourd'hui, c'est plus du tout Rare qui s'en occupe, mais quand on voit GoldenEye qui ressort, ça pue la même.
Oui, voilà, le remake, succès, oui, j'ai eu l'occasion d'y toucher un peu, c'est plus Rare, quoi, c'est plus le même jeu. Moi, on a beau me le vendre comme un remake un peu amélioré, machin, tout ça, moi, ça vient pas, quoi.
Rare est mort ou pas? Peut-être des surprises, peut-être qu'ils reviendront chez Nintendo.
Voilà, après peut-être qu'il y aura une nouvelle tête pensante qui va arriver en tête du studio et qui va réussir à mener tout ça bien mieux qu'avant, mais pour l'instant
ça craint.
Microsoft les met sur rien, il y a des rumeurs de Killer Instinct 3, ouais. Mais...
Donc le mec qui a repris le studio, le développeur on va dire, c'était un ancien qui a bossé sur...
Sega All-Star, ouais.
Sony et Sega All-Star Racing,
voilà,
le jeu de course
qui sortira, le 2 sortira bientôt, et la série Colin McRae.
C'est peut-être pour ça que du coup il y a des bagnoles dans
Banjo-Kazooie
3.
Peut-être, il a mis son savoir-faire au service de la licence.
Bon,
On sent qu'on est déçu quand même.
La success story, comme on a dit, c'est amour, gloire et beauté. C'est que malheureusement, ça finit sur un divorce dur.
Souvent, les success stories, il y a toujours un moment où finalement, il y a un truc qui va plus et c'est la descente aux enfers.
Ça me fait penser un peu à l'histoire de Loana sous cette histoire.
Allez, justement, on va se remémorer rapidement parce qu'on est déjà très long. Rapidement, un coup de cœur, il faut retenir un seul jeu de Rare. Allez, lequel on prend?
Vas-y, Crayo, je réfléchis.
Évidemment, GoldenEye pour le multijoueur et Banjo-Kazooie pour le solo. Mais j'avais pas le droit de dire deux jeux, donc ça sera GoldenEye. Mais j'ai quand même dit deux jeux.
J'ai le droit de dire deux jeux.
Vas-y.
Donkey Kong Country, le premier, et GoldenEye, je pense.
Je vais faire dans le...
L'original.
Je vais faire dans la provoque, mais je vais dire Star Fox Adventures.
Oui,
Le dernier jeu.
Je sais, alors peut-être qu'effectivement, parce que ce dernier jeu est sorti après l'annonce de Microsoft. Donc dès qu'on voit le logo Rare s'afficher pour la dernière fois, forcément on se dit il y a quand même un pincement au cœur. Mais au-delà de ça, et malgré tout, je pense que Rare a fait un super bon boulot avec ce jeu. En termes d'univers, en termes de variété de gameplay, en termes d'aventure.
Ils ont osé casser la licence, quoi.
Après, moi, je l'ai pas vu vraiment comme un Star Fox. Je sais que ça te gêne, Bibi, et que Star Fox, ça doit rester un shoot, évidemment. Mais je l'ai pas vu comme ça. J'ai vu vraiment comme un nouveau jeu d'aventure. Et alors, en plus, et encore, tu vois, avec ce, on a parlé pendant tout le long de cette historique, le défi technique, la fourrure. Première fois, on avait ça, de la fourrure dans un jeu vidéo. Ouais.
Même rien que les images dans les magazines, je voyais Fox de près, les poils, même c'était... pas en animé encore. Ah ouais. Je me suis dit, c'est la folie.
C'est fou. Et vraiment, là, on voyait vraiment encore le talent de ce studio en termes de graphiquement.
Voulait toujours repousser le côté technique dans ses tréfonds, parce que Star Fox Adventure, il est sorti pourtant vers le début de la GameCube, on va dire, et jusqu'à la fin, il restera un des plus beaux jeux de la console. Et même encore aujourd'hui, je l'ai ressorti récemment. Malheureusement sur une télé HD, mais sans ça, il reste encore magnifique, je trouve, et vraiment abouti.
Alors, est-ce que les membres et les internautes de Nintendo Master ont peut-être plus de souvenirs que Crayo concernant Rareware? Oui, voilà, moi je balance. Hein. On a Malikou avec nous. Salut Malikou, ça va bien?
Salut, ça va très bien, vous?
Écoute, ça va très bien. Alors, déjà, j'ai envie de te demander, s'il fallait retenir, si t'avais un souvenir particulier de Rare, si t'avais un jeu qui t'avait marqué, ce serait lequel?
Alors, un jeu, bah, c'est un peu difficile à dire, parce que enfin, moi, j'ai été baigné dans les jeux Rareware à l'époque de la Nintendo 64. Donc, bon, s'il y avait un jeu que je pouvais dire là maintenant, ce serait Donkey Kong 64.
Ah, le jeu polémique, j'ai envie de dire quand même, Donkey Kong 64. Bon, je me demande pas si tu l'as fait, Crayo, Bibi.
J'y ai joué, mais quand j'étais jeune, donc j'ai pas vraiment d'a priori dessus, mais il m'a pas marqué plus que ça.
Donkey Kong 64, c'était le fameux. Enfin, c'est vrai que la philosophie Rare dans les jeux avait tendance à pousser le côté collection des items. Il y a toujours dans les jeux Rare 40 trucs à récolter. Et Donkey Kong 64, c'était l'extrême, quoi. Il y avait 5 personnages différents, et pour chaque personnage, il fallait récolter peut-être 10 items différents.
Récolter les bananes et tout, ouais. Exactement. Ça, vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé le concept d'explorer le niveau avec plusieurs personnages, plusieurs points de vue différents. Franchement, ça m'avait beaucoup plu.
Et t'étais allé jusqu'au bout du jeu, tu l'avais fini
Ouais, bah, j'avais eu toutes les bananes dorées là, enfin tout, et wow. puis je l'ai refait et je l'ai fait deux fois, quoi.
Waouh, parce que alors, vraiment c'est un jeu qui demande beaucoup 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 d'investissement. Est-ce que toi justement tu regrettes, est-ce que tu aurais voulu que la franchise Donkey Kong revienne avec un jeu comme ça en exploration 3D?
Bah ouais, justement, ouais, j'aurais beaucoup aimé revoir un jeu de ce genre, un petit retour aux sources, enfin pas vraiment aux sources vu que on a eu Donkey Kong Country Returns il y a pas longtemps, mais un jeu d'exploration 3D Donkey Kong, ouais, ça m'aurait bien plu, mais je vois mal Nintendo refaire ce que Rare a fait sur Nintendo 64.
Comme tu l'avais évoqué, Bibi, peut-être hein, sur 3DS, puisqu'il y a des rumeurs.
Oui, il y a des rumeurs Donkey Kong 3D, mais bon, Donkey Kong 3D, on le faire en 2D, ce sera peut-être un peu dommage, donc pourquoi pas. Faut demander à Retro Studio, hein, parce que s'il y a un Donkey Kong, je pense qu'ils seront derrière.
Effectivement.
Ouais, Retro Studio, c'est un peu le nouveau Rare, quoi. On voit la renaissance de l'époque Nintendo 64 Rare à travers Retro Studio, quoi.
Même si Retro Studio ne sort peut-être pas autant de jeux que Rare à l'époque, mais ouais, effectivement, c'est vrai que...
Ouais, enfin, Rare a fait quasiment toute la Nintendo 64, ça faut bien le dire.
Tu voudrais rajouter quelque chose à propos de Rare ?
Ouais, j'aurais rajouté que j'aurais beaucoup aimé voir apparaître sur la console virtuelle de la Wii. Enfin, moi, j'ai encore ma Nintendo 64 et mes jeux Rare. Mais j'aurais bien aimé revoir les jeux apparaître sur Wii pour que les nouveaux joueurs découvrent un peu cette époque.
Je suis complètement d'accord avec
ça.
Mais
ça, je pense qu'ils peuvent pas.
Non, mais alors ça, ben oui et non, puisqu'on a vu que Donkey Kong Country est sorti sur la console virtuelle pour la Super Nintendo. Donc on voit que il est. Alors je sais, évidemment, on sait pas comment ça se passe au niveau des licences, mais donc il y a quand même des jeux Rare qui sont sortis, mais toute la période 64, aucun jeu n'est disponible en console virtuelle.
Ouais, c'est regrettable. Ça peut, alors que voilà quoi, il y a vraiment beaucoup de jeux à livrer quand même.
Ah, mais enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, si on veut jouer à du Rareware version 64,
c'est les brocantes.
C'est exactement, soit la brocante, et à la limite, ils ont fait deux remakes sur Xbox. Il y a le Banjo-Kazooie en HD, le Perfect Dark en HD.
Ah oui, le Perfect Dark. Ah oui, Perfect Dark m'a fait passer de longues soirées.
Bon bah écoute, merci beaucoup en tout cas Manicou, voilà, d'avoir fait partager ton sentiment sur Rare.
Bah de rien, ça m'a fait plaisir de participer.
Et bah un grand plaisir. Bah écoute, à une prochaine alors.
Ok, bah je manquerai pas alors.
Et bah merci à toi.
Salut.
Merci. Salut, bye. Allez, on va prendre tout de suite quelqu'un d'autre sur Skype, on a Jumpman avec nous. Salut Jumpman, ça va bien?
Salut, ça va bien et vous?
Ça va, ouais,
ça va bien depuis le podcast Apple, hein, je crois que c'était ça hein, la dernière fois qu'on t'avait eu.
Ouais, c'est ça,
je crois. Effectivement.
Bon, alors là, on a notre dossier pour toi, Rareware. Est-ce que t'as un souvenir particulier, un jeu qui t'avait marqué de ce studio?
Alors moi, ce qui m'a marqué dans les jeux Rareware, parce que oui, j'y ai joué effectivement, on a d'une part ben, les Donkey Kong Country, surtout le 2, parce que C'est né une époque où ce studio, il avait vraiment quelque chose de particulier, une magie.
Qu'est-ce que tu gères par là? Est-ce que tu veux dire qu'aujourd'hui, il a plu?
Oui, un petit peu, oui. Enfin, c'est oui. C'est, bah, de toute façon, on n'entend plus tellement parler des jeux Rare. Hein, et puis, comment ça s'appelle là, le jeu de sport là?
Kinect Sport.
Kinect Sport, je veux dire, tout le monde s'en fout que ce soit Rare.
Ah oui, c'est clair. Est-ce que tu regrettes que Rareware ait quitté Nintendo?
Ouais, mais je saurais pas trop dire s'ils auraient été aussi bons parce que déjà, je sais pas. Enfin, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'ils sont moins bons à cause de leur départ de Nintendo ou est-ce que c'est autre chose? Les studios comme ça qui sont proches de Nintendo, Nintendo, il met beaucoup la patte, je pense, pour un peu sauver les projets qui partent un peu à la dérive ou je sais pas. C'est Nintendo qui fait, à mon avis, que ces jeux, ils ont ce petit plus. À mon avis, ils y sont pas pour rien. Ils font pas Nintendo, ils font pas juste, on vous commande un jeu et puis Rareware le développe et à la fin, ils
Il
le
le
rendent. Non,
montre,
à mon
ouais.
avis, Nintendo, Miyamoto même lui-même. Intervient, il me semble, dans ces jeux-là, ils y mettent la main à la pâte, et je pense que ça joue.
Ah mais tu as complètement raison. C'est vrai que à l'époque on pouvait pas vraiment voir les dessous des développements, mais aujourd'hui on peut le voir. J'ai tendance à le rappeler. C'est vrai que Retro
Voilà.
Studio, qui est dans un cas assez similaire à celui de Rare, fait un compte rendu journalier quotidien de son développement à 3h du mat pour être synchro avec les horaires japonais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, compte rendu de ce qu'ils ont fait dans la journée, et Nintendo Japon qui dit ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est nul, ça vous refaites, ça on valide.
Oui, ça, ouais, je m'en
C'est
doute pas, ouais, que c'est.
vraiment pas évident.
Mais oui, d'un autre côté, quand on voit comment a évolué la politique de Nintendo, on se rend compte que c'était un petit peu logique qu'il laisse Rare à quelqu'un d'autre, peut-être parce que, je sais pas si ça aurait fait tellement fait vendre des consoles à un nouveau Banjo-Kazooie ou un. Je sais pas si ça aurait tellement été un argument important à l'époque de Wii Sports et de. Enfin voilà quoi.
Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, hein, Jumpman, voilà, hein, d'avoir
Merci
participé.
à vous.
Bah
Bah,
de
merci
rien.
à toi, et puis alors à une prochaine.
Ouais, à une prochaine, allez, salut, bonne
Salut,
Salut,
bonne
bye.
soirée.
Ça y est, il est enfin là, le jeu 3DS que tout le monde attendait, ou presque. En tout cas, le jeu que Nintendo avait mis en avant pour la présentation de sa console, la 3DS, Kid Icarus Uprising. Et alors, Bibi, t'as eu la chance d'y jouer plus de 6 heures!
Oui, la chance inouïe de payer le jeu avant sa sortie.
Bon, alors, on va pas y aller par quatre chemins, c'est bien ou c'est pas bien?
C'est très bien. Voilà.
Ah! Alors, j'aurais envie de commencer par finalement ce dont on a beaucoup discuté avec Crayo, Pomme. Cette fameuse maniabilité à une main. Donc toi, t'as eu des soucis de poignet ou pas?
Bah, j'avais déjà joué à Metroid Prime Hunter sur DS, qui a un gameplay assez similaire, et j'ai jamais été gêné contrairement à beaucoup. Et là, bah moi j'ai pas senti de gêne non plus. Alors c'est peut-être parce que je sais pas, j'ai des poignets résistants ou je sais pas.
Explique-nous, Bibi.
Mais non, moi j'ai pas de crispation autour de la console, ou alors c'est peut-être parce que je suis décontracté en y jouant, je sais pas. Donc mon avis sera forcément subjectif parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout, qui n'y arrivent pas. Il y a des sites qui l'ont saqué, qui lui ont mis 5 sur 10 juste à cause du gameplay. Moi, ça me dérange pas. Alors après, c'est un coup à prendre parce que c'est vrai qu'il faut gérer plusieurs données. C'est peut-être mieux que le Kawashima pour entraîner son cerveau des fois, tellement on doit être multitâche à voir ce qu'il y a à l'écran, esquiver, tirer en même temps, tout ça. Voilà, ça plaira, ça plaira pas, ça va
Alors,
diviser.
le jeu est fourni avec un socle.
Oui,
Est-ce que tu t'es servi de ce socle?
bah alors pour le test, j'étais obligé, donc j'ai fait pour l'instant les 6 premières heures avec le socle. C'est pas le Circle Pad Pro, quoi. On sent qu'il n'y a pas la finition derrière. Moi, j'ai pas trouvé ça ultra confortable à jouer. On a du mal à se poser sur son bureau ou sur sa table ou des choses comme ça. Au final, je trouve que c'est assez équivalent.
Serait revenu au Virtual Boy, où on était
Oui, voilà.
obligé d'avoir un bureau ou une table pour
Bah,
pouvoir jouer,
voilà, c'est
quoi.
ça. Bah, c'est vrai que ça rend le jeu plus du tout portable à cause de ça. Mais si on se cale bien entre ses genoux, si on prend une... Non, mais vraiment, si on prend une
Les
position
astuces de Bibi
confortable,
pour bien jouer
voilà,
à Kid
les
Icarus.
astuces de Mémé et Bibi, bah, si on se met bien, et bah, la 3DS bouge pas, on a bien calé sur ses genoux, et puis c'est parti, quoi. Moi, en tout cas, ça me plaît plus comme ça aux mains qu'au socle.
D'accord, alors le jeu, c'est du shoot, shoot, shoot.
Bah, alors, dans les phases de ciel, c'est shoot, à la Star Fox un peu. Et phase à terre, c'est plus aventure, action, même presque envie de dire beat'em all, mais bon.
Oui.
Donc voilà, c'est vraiment de l'action. Si on n'aime pas ça, bah faut pas acheter. Hein, parce que... Mais c'est vraiment bien foutu. Ça donne envie de voir un nouveau Star Fox, un peu rénové comme ça.
Ah oui, alors parce que niveau réalisation, ça donne quoi, ce qu'il dit Carus
Technique, graphique. Bah, ça donne du très bon. Alors, comme je l'ai dit et répété, c'est pas de la finesse d'un Resident Evil Revelations, mais c'est l'artistique surtout qui prend le pas. C'est vraiment magnifique, les contrastes de couleurs, tout ça, on sent qu'ils sont déchaînés. Surtout quand on est en face de ciel, en fait, ils ont fait des cieux vraiment colorés, un peu bucoliques, tout ça. Donc ça, j'ai vraiment aimé les animations qui fusent de partout, les effets météorologiques, tout ça. Franchement, c'est top. Alors, il y a un léger aliasing, un peu plus renforcé avec la 3D, mais c'est pas...
Pas gênant.
C'est pas foncièrement gênant, le jeu est très très fluide, même en 3D, donc ça c'est un bon point.
Mais alors ça parle beaucoup, par contre, non ?
Alors ça c'est un de mes gros coups de cœur et une de mes plus grosses frustrations, parce que les dialogues sont vraiment savoureux, il y a des blagues mais à la chaîne, des clins d'œil aussi à d'autres jeux, au Kid Icarus originel aussi, et malheureusement... C'est en sous-titre chez nous, Nintendo a pas eu la bonne idée de localiser le jeu. Enfin, la bonne idée, après fallait voir le résultat. Et
alors qu'ils l'ont fait pour Star Fox.
Alors qu'ils l'ont fait pour Star Fox.
Pour
alors...
Resident Evil aussi.
Mais aussi, il y a moins de dialogue dans ces jeux-là que dans Kid Icarus. Je sais que pour Resident Evil, ça peut paraître louche, mais il y a beaucoup plus dans Kid Icarus. Et c'est très dur, quand on a le jeu en difficulté un peu plus élevée, de quitter les yeux de l'écran pour voir les sous-titres. Alors, on peut les mettre sur l'écran 3D hein, quand même, mais même comme ça, c'est pas facile parce qu'on se fait agresser de partout. Et si on veut être un tant soit peu efficace et pas finir la phase au sol avec 3 grammes de vie, bah faut rester dans l'action et c'est dur donc de regarder les dialogues. Même pour quelqu'un qui comprend l'anglais comme moi, bah on est tellement focalisé sur l'action qu'on n'écoute pas vraiment les dialogues, on comprend pas toutes les subtilités, tout ça. Et c'est vraiment
très dommage.
C'est dommage
parce que tu passes à côté, du coup, c'est vrai, l'histoire est intéressante, enfin il y a une narration ou c'est vraiment juste de... Est-ce qu'on enchaîne les niveaux un peu comme dans un jeu Mario sans logique ? Ou est-ce que vraiment il y a un fil conducteur ?
Alors moi, vu que c'était quand même Nintendo à la base, je me suis dit que ça allait être un scénario à deux balles, tu sais, avec le contexte de début, puis après on retrouvera qu'à la fin. Voilà, on retrouvera qu'à la fin. Et non, ils ont essayé de surprendre, ils amènent des nouvelles choses à chaque fois, des rebondissements, tout ça. Donc il y a vraiment une trame à suivre. Le début du niveau instaure quelque chose qui évoluera jusqu'à la fin, tout ça.
D'accord, c'est bien ça.
Et pour l'instant, le scénario est assez inattendu. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour le final. Donc, très bon point de ce côté-là. Venant des licences Nintendo, voilà, c'est toujours leur petit point faible, le côté scénario un peu en retrait. Mais là, ils ont bien bossé leur copie, sans non plus que ce soit au niveau d'un Metal Gear Solid ou autre. Hein. Mais c'est un plus sympathique.
D'accord. La gestion de la difficulté est assez originale dans ce jeu.
Original, je sais pas, mais en tout cas, elle est entièrement modulable et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a d'un degré de 1 de difficulté, qui est le mode très facile, à 9. Et entre chaque cran, 1 et 2, on peut faire 1.1, 1.2, 1.3.
Oh putain, non, mais attends, mais c'est super précis, comment tu fais pour savoir hein?
Ben, c'est à force de jouer, en fait, au feeling, tu te dis, ah là, je pourrais peut-être avancer un peu. Et le jeu lui-même, en fonction de comment tu arrives à faire un niveau, il va te donner des suggestions de difficultés que tu peux faire.
Ah, c'est bien ça.
Alors généralement, il essaye de pousser au hardcore quand même,
ah,
parce
ouais
que ouais, tu réussis un niveau en 5, ils te disent oh, « bah essaye le 7 là !» Donc voilà, mais c'est vraiment modulable et c'est surtout un gros plus pour la rejouabilité du solo, parce qu'on aura envie d'essayer le niveau 1, mais en difficulté 9 pour voir ce que ça change, tout ça.
Grosso modo, c'est quoi ça ? Plus d'ennemis à l'écran,
plus d'ennemis,
difficile à tuer.
Beaucoup plus résistants, ils attaquent différemment, il y a même des nouveaux monstres qui apparaissent plus puissants qu'on retrouve normalement plus loin dans l'aventure. Les boss sont beaucoup plus difficiles, ils ont des nouvelles attaques, ils sont beaucoup plus résistants. Donc c'est un vrai challenge. Et surtout ce qui est bien, c'est que des fois il y a un petit chemin alternatif barré par une porte avec un chiffre en fait qui représente la difficulté à laquelle on doit mettre le jeu pour pouvoir y accéder. Et donc on se prendra à aller dans tous les niveaux avec la difficulté demandée pour y aller. Des fois c'est 9, donc va falloir en chier pour...
Donc toi c'est facile pour toi puisque tu joues toujours en 9, bah, c'est ça hein,
bien
Mimi,
sûr
hein.
Oui, toujours en 9.
Ouais, t'étais à 4 tout à l'heure, j'ai vu.
Non, alors 9, j'ai pas encore testé dans ma partie, j'avais testé quand on me l'a fait essayer en preview. C'est sûrement très très dur, moi déjà 6-7, voilà, ça devient hardcore, surtout pour les boss, donc on y va doucement, peut-être qu'à la fin du jeu je tenterai les difficultés hardcore, mais pas pour l'instant.
Alors il y a une autre fonctionnalité que Nintendo a mis en avant avec Kid Icarus, c'est la fameuse réalité augmentée, puisqu'il y a des cartes offertes d'ailleurs avec le jeu. Alors, est-ce que t'as testé ça
Ouais, j'ai testé. Bon, alors moi, par contre, j'avais pas réservé mon jeu ni rien, donc j'ai pas eu le pack de 24 cartes comme certaines anciennes proposent, mais j'ai eu les 6 de base.
Et tu vas pouvoir en avoir si tu rentres ton code.
Oui, si on rentre...
Ah oui, bah, ça, faut le préciser. Hein,
dès
si
aujourd'hui,
écoutez,
sur le club VIP Nintendo, si vous enregistrez, en plus, vous gagnez 250 points en achetant le jeu, vous pouvez aller au catalogue VIP et acheter... 2 packs de 6 cartes pour seulement 250 étoiles, donc gratuitement. Je me suis même demandé pourquoi faire ça et pas les foutre directement si c'est gratuit au final. Mais bon.
C'est pour pousser les gens à s'inscrire.
À visiter le site, à s'inscrire peut-être. Ouais. Et donc la réalité augmentée, bah, en fait, on met ses cartes. Et puis...
T'as l'air méga emballé quand t'en parles.
Et puis les personnages pop comme ça à l'écran, tout ça, et ça donne des cœurs donc, à utiliser dans le jeu.
Dans le jeu. Pendant que tu fais une phase en vol, tu mets.
Non. C'est une option à part dans les menus
D'accord.
Où c'est juste, voilà, t'as ton bureau, tu fous ta carte et puis t'as le personnage qui pop, mais ça te donne en fait des... À chaque fois que t'as une nouvelle carte, ça te donne des cœurs que tu pourras utiliser en jeu.
D'accord, ok.
Les cœurs étant la monnaie du jeu, voilà. Je précise,
parce qu'il montrait que genre tu mettais deux cartes, elles étaient augmentées,
oui,
ça
oui,
faisait des
après,
combats entre les cartes
oui.
et tout.
Après on met deux cartes, on les fait se faire face et ils s'affrontent. Pour des combats. Alors moi je me suis dit que ça aurait été un bon truc pour Pokémon en fait, de
ah oui,
la réalité augmentée dans les cartes maintenant et de pouvoir vraiment faire des combats selon les règles de la carte machin. Dans les cours de récré, je suis sûr que ça ferait fureur. Mais
parce
bon.
Qu'en soi, en soi, ça sert à rien quoi.
Ah ouais, ça sert à rien.
La réalité augmentée, ça sert à rien quoi.
Bah non, là pour Kid Icarus ça sert à rien, ça sert pour les collectionneurs qui veulent avoir toutes les cartes tout ça. Moi j'ai bien.
Il y en a plus de 300.
Il y en a plus de 300.
Enfin c'est.
Autant au Japon, ils proposent de gagner des cartes en mangeant des chocolats. Ils ont fait une opération avec un distributeur de chocolat, machin. Autant chez nous, bah, on va galérer à mort pour avoir les cartes, parce que je sais pas si le club VIP, c'est à chaque fois des nouvelles selon les packs que t'achètes ou pas. Et sinon, il y a rien d'autre pour en avoir. Donc,
oh, j'imagine que Nintendo va trouver des moyens justement de promotion.
Bah ouais, mais ça aurait été bien de le faire pour la sortie du jeu, enfin bon.
Effectivement, après... et puis alors, petit détail, hein, idiot, mais alors qui m'a fait sourire, c'est que les cartes sont fabriquées par Panini. Ça fait rigoler, ça.
Pas vu du tout.
Panini sur les paquets de cartes, ça rappellera des souvenirs hein, pour les.
Au plus vieux, oui.
Ceux qui comme nous, enfin peut-être qu'encore aujourd'hui, à vrai dire, je sais pas si ça se collectionne toujours les.
Ah si, je.
Les
si,
d'images.
Ouais. Toujours aux caisses, il y a les paquets de cartes là achetés pour les gosses.
et le multijoueur alors, Bibi. Ça prouve en tout cas que le jeu est très complet,
le
hein,
plus,
vu
le jeu,
plus, tout ce dont on parle.
Le jeu est très très complet en solo déjà, c'est la mort avec toutes les armes à récolter, les petits bonus à avoir et tout. Et le multijoueur, donc en fait, c'est un 3 versus 3 où chacun pour sa tronche. Donc il y a l'équipe des ténèbres, l'équipe de la lumière et on s'affronte sur des arènes en fait. Et avec un feeling très Smash Bros quand même dans.
Ah oui.
Dans l'âme, mais bon, vu que c'est son créateur, voilà, on se dit que c'est pour ça. Et c'est très sympa. Alors, j'ai fait qu'une partie pour l'instant. Je me suis concentré vachement sur le solo, mais c'était très sympa. J'ai éclaté tout le monde.
Oh,
ça m'a fait gagner plein de trésors, donc je suis content. Mais c'est assez bien. C'est brouillon à l'image de Smash Bros.
Smash Bros, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Mais on peut quand même essayer de faire des petites stratégies tous les trois, essayer de prendre des chemins différents, tout ça. Pour affronter ses ennemis, les armes qu'on gagne en solo peuvent être utilisées dans le multi, de même que les dons. Donc cette connectivité entre les deux, c'est assez intéressant parce que ça permet de soit d'éclater plus les mecs, soit d'utiliser d'autres stratégies qu'ils n'ont pas encore. Donc je suis confiant pour le multi pour l'instant.
D'accord, ok. Bon, je pense qu'on a fait un tour d'horizon complet sur le jeu, hein. Donc tu donneras ton verdict définitif, j'imagine, sur Nintendo Master.
Oui, je suis censé le donner pour aujourd'hui. Donc ça va être hardcore, mais on va essayer de le faire.
Ok, très bien. Bon, il y a un autre jeu marquant là qu'il faut dont
bah
on parle.
Oui,
on peut pas louper.
Bien sûr.
Mais pourquoi on parle pas de Poképark
Poképark 2
minutes,
quoi.
10 minutes sur Poképark.
Allez, c'est clair. Alors qui bon
bah. Bah j'ai beaucoup parlé donc je laisse à Créo bien sûr.
Bah oui. évidemment. Poképark 2 donc qui sortira ce vendredi.
voilà, merci.
On
donc, des mini jeux sur Wii.
Voilà sur Wii. Comme le 1 qui est sorti il y a pas longtemps en plus. Il me semble on l'a sorti quand ça cette
année
là.
Oh c'était peut-être l'année dernière ou.
Bon c'est pour les fans de Pokémon ou les plus jeune.
Il y a pas, enfin c'est pas un jeu très ambitieux. Hein. Il faut pas se leurrer. Voilà. Donc comme on l'a dit, des mini-jeux pour les fans de Pokémon.
Allez, on passe aux questions des membres et alors une rumeur qui est apparue cette semaine et c'est Amiès qui s'en fait le relais. qui demande avec l'histoire de la Wii U qui ne serait pas capable d'afficher du 1080p quelles que soient les circonstances, notamment si la mablette est utilisée de façon intensive ou pas. Pensez-vous qu'encore une fois Big N va décevoir tous les fans qui désirent voir un Nintendo au top techniquement et qui se languissent déjà de voir leur Zelda en 1080p?
Alors, dur que de répondre à cette question. Déjà, c'est une rumeur évidemment.
Bien évidemment.
Donc on en saura plus à l'E3.
Et encore, je pense qu'on ne pourra pas vraiment savoir l'E3. Mais
ouais, c'est clair que si la Wii U n'est pas capable d'afficher des jeux en 1080p, je serais vraiment déçu pour ma part, parce qu'on sait que la PS3 le fait avec quelques jeux, pas énormément. Si la Wii U n'arrive pas à le faire, je pense qu'elle va vraiment être dépassée technologiquement par les nouvelles consoles, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi, de la part de Nintendo.
C'est dommage, mais en même temps, je pense qu'ils ont un peu abandonné l'idée de la puissance à partir de la GameCube. En tout cas, ils ont trouvé une alternative. Je pense qu'on peut déjà, enfin, je suis un peu optimiste peut-être, mais on peut déjà se réjouir que Nintendo revienne un peu plus à la charge, parce qu'ils auraient pu faire beaucoup moins, rester sur la lancée de la Wii, juste augmenter un peu plus, ou au moins mettre un filtre HD. Là, au moins, on sait qu'ils vont proposer...
Attends, mais toi... Normal, si les fans, ils ont pas d'exigence comme toi, mais forcément qu'après, Nintendo, ils nous foutent de la merde... En boîte là, toi tu t'estimes heureux que Nintendo ne fasse pas une Wii juste avec un filtre HD?
Bah oui, déjà, parce que
tu veux pas demander un peu quelque chose de...
Bah si, bien sûr, moi aussi je serais heureux de voir un Zelda qui déchire tout graphiquement, tout ça, mais bon, c'est...
D'expérience, Nintendo nous a habitués à être exigeants, et on l'a, en plus on en a parlé avec Rare qui repoussait sans cesse les limites. Nintendo c'est pareil, la Nintendo c'est ça, repousser les techniques en termes de graphisme, la Super Nintendo aussi, la 64 on n'en parle même pas, c'était tout le concept de la console était basé là-dessus, la GameCube pareil, alors qu'elle était, et encore hein, ça je le souligne, c'était des consoles vendues pas chères. Nintendo se permettait de faire des consoles très puissantes à bas coût et à bas prix.
Ouais, mais on peut, tout ce côté exigeant, je pense qu'il tenait à Yamauchi, l'ancien président de Nintendo.
Ah, mais que... Iwata, il n'y en a plus rien à foutre.
Voilà, non, mais depuis la passation de pouvoir à Iwata, bah, c'est une nouvelle politique qui est arrivée, c'est une nouvelle façon de voir le jeu vidéo. Donc voilà, c'est... la puissance a été un peu mise de côté, on y revient un peu, c'est sûr qu'elle ne sera pas au niveau de la PS4, Xbox 720, tout ça.
Ouais, mais...
Enfin, c'est des rumeurs, donc c'est dur
Non, c'est sûr, mais là, on dit, on imagine.
Voilà, si on imagine.
On part de ce principe-là.
Voilà, si elle est, si elle est genre un peu plus puissante que la PS3 Xbox 360, moi, ça m'irait parce que...
Ah, mais
que...
ce serait déjà bien, mais...
Voilà, bon, bah, ça, toutes les rumeurs vont dans ce sens, en tout cas. Même les développeurs disent quand même qu'elle a la patate un peu...
Donc mais si tu peux pas afficher du 1080p, excuse-moi.
De toute façon, faut comprendre Nintendo, ils se sont viandés avec la 64, viandés avec la GameCube, avec des consoles puissantes en gros. Donc maintenant, est-ce qu'ils ont pas peur de se dire, si on balance une console puissante, on va encore se viander avec la concurrence qu'il y a autour? Moi, c'est
Mis à part que ça leur permettrait d'avoir tous les jeux des PS4 et du coup de tenir vraiment avec des gros jeux multiplateformes.
Mais est-ce qu'elle en a besoin?
Ah, bien sûr, bien sûr. À mon avis, d'ailleurs, ils le disent, hein, le dernier E3, oui, you, parce qu'on a besoin de vous les gamers, voilà, tout est dit, quoi. C'est... Ouais. Ils se sont rendus compte que les casuals, c'est très volatile, que ça part en un brin de vent ailleurs, ou alors qu'ils renouvellent pas forcément leur matos. Ils se disent... Là, on va faire du fric, c'est la fanbase et c'est les gamers. Donc, ah là là.
Et on espère. Hein.
Voilà, après, c'est toutes les questions en réponse à l'E3 ou un peu après, parce qu'on sait que Nintendo est très frileux à montrer les spécificités techniques de ses consoles. Sauf avant, hein, bizarrement. On se souvient, la Super Nintendo et tout ça, ils balançaient le nombre de couleurs et tout.
C'est peut-être un signe aussi, ils veulent pas balancer l'aspect technique. C'est peut-être un mauvais signe pour la Wii U. Hein.
Moi, peut-être un mauvais signe, mais peut-être aussi parce qu'on sait qu'elle est encore en constante évolution. Bon, ça risque de se tasser très prochainement.
Que là, c'est tassé. Hein. Franchement,
je pense que là, on est au 5e kit de développement, il me semble. Peut-être dans les rumeurs.
Attends, à 8 mois de la sortie, j'espère qu'elle est finalisée leur console, parce que sinon ça craint.
Allez, on termine par une question de Arctal. Alors, il dit, en 2008, il me semble, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'annonce d'un éventuel Killer Instinct 3. Celles-ci ont entraîné par la suite plusieurs pétitions sur internet pour que cela devienne plus qu'une rumeur, à savoir un véritable jeu de baston. Plus particulièrement, évidemment, sur la Xbox 360. Pensez-vous que cela reste possible? Et si oui, pensez-vous qu'il pourrait sortir sur Wii U, vu que les deux premiers opus sont sortis sur des consoles Nintendo?
Va falloir demander à Microsoft, mais je pense que la réponse va être non. Hein.
Je veux pas. Alors, faut déjà, on explique juste la licence Killer Instinct, même si elle a été sur deux consoles Nintendo, n'appartient pas à Nintendo, elle appartient à Rareware qui appartient maintenant à Microsoft. Et que si on a pu voir des jeux DS et GBA arriver de chez Rareware qui étaient pourtant déjà chez Microsoft, c'est juste parce que la firme américaine n'a pas de portable lui-même, donc il a. Voilà,
oui,
c'est de l'argent de poche.
Exactement, oui. C'est une bonne expression.
Oui, c'est de l'argent de poche pour eux. De toute façon, ils n'ont pas de concurrence ni rien, donc ils peuvent se permettre de proposer ça. Ça fait du tort à Sony. Eux, ils sont contents. Hein, ils sont contents au final. Et non, il n'y a aucune chance de le voir venir sur Wii U, parce que par contre, là, la Wii U sera en concurrence directe avec, au départ, la 360, puis après la Xbox 720, comme on l'appelle. Donc Microsoft va pas se tirer une balle dans le pied. C'est comme si en fait Nintendo proposait un Mario. Ils se disaient et on va sortir Mario sur Xbox juste histoire de voir un peu.
Vu que Rareware n'est plus ce qu'il était, justement, imaginons Microsoft veut s'en séparer et le revendrait à Nintendo
pour 1€.
Un euro symbolique.
Peut-être pas pour 1€, mais voilà. Nintendo pourrait racheter.
Non, mais jamais de vie.
Après, bon, il n'y a plus personne chez Rare.
La licence Killer Instinct, moi, je l'ai dit tout à l'heure, ok, j'étais fan de ce jeu, mais est-ce qu'elle a encore une renommée aujourd'hui?
Déjà, à l'époque, elle en avait sûrement une, hein, mais c'était pas Donkey Kong Country non plus. Alors maintenant, oui, je sais qu'il y a eu des rumeurs du 3, ça fait des années qu'on se traîne cette rumeur, elle est revenue à la charge il n'y a pas longtemps. Bah, faut voir si ce sera annoncé, mais je pense pas que ça fera vendre des consoles, je pense pas que ça fera. À moins qu'ils mettent vraiment le paquet, mais voilà, mon avis sur la question, non, ça sortira pas sur Wii U, et pour les rumeurs, attendons, de toute façon, on n'a pas plus d'infos chez nous.
Allez, c'est l'heure, enfin, on arrive enfin à la fin du podcast, et donc le Nintendo Game, forcément. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de blind test.
Ouais, après notre magnifique performance de chant.
Qu'on avait chanté avec nos voix, ouais, c'était assez insupportable. Bon, on fera mieux là cette fois-ci. On a avec nous en ligne Alexis. Salut Alexis, ça va bien?
Salut, ça va très bien et vous?
Ça va super bien. Bon, écoute, je te laisse entre les mains de Crayo pour t'expliquer le jeu.
Bonjour.
Alors, ça va être très simple. On a fait un podcast sur Rareware, donc voilà, on va te faire un blind test. Quelques musiques vont passer et le but, ça sera de deviner de quel jeu ça appartient. Voilà, donc.
Alors, ça correspond aux intros des jeux à chaque fois. Hein,
Ça va, il n'y a pas trop de soucis sur la compréhension du jeu, j'imagine.
On va voir ça.
Et donc, on passe 5 extraits. Combien il doit reconnaître pour gagner?
On va être gentil. 3.
3. Toujours la moyenne au-dessus. Voilà.
Ok.
Alors, 5 extraits, 3 bonnes réponses et tu auras un petit goodies.
On verra ça.
Est-ce que tu es prêt? Première musique, DJ.
T'as ça en boîte de nuit, ça en jette. Ah, ouais.
Alors, est-ce que t'as une petite idée de quel jeu c'est?
Y a pas de choix.
Eh non, c'est la difficulté.
On va commencer sans choix, on verra bien au fil du jeu.
Ah, ça va être ardu. Je n'en ai pas la moindre idée.
Bon, allez, on aide un peu.
Allez, on aide un peu. Trois propositions de choix. Alors, on a Killer Instinct, on a Donkey Kong Country 3. Ou GoldenEye 007.
Oh, s'il te plaît, tes choix, Crayo.
Comment? J'ai pas entendu.
Première possibilité.
Killer Instinct?
Ouais.
Eh ben, c'était la mauvaise réponse. C'était Donkey Kong Country 3.
C'est pas vrai.
Si.
Et c'est bête parce que franchement, les propositions qu'il t'a données, ça colle, mais pas du tout à l'univers.
Je m'attendais pas à ça pour un Donkey Kong Country,
Voilà. En fait, Killer Instinct, c'est un jeu de combat parfois un peu dark. Donc, avoir une musique comme ça dedans.
C'est une musique dark quand même. Hein.
Oui, dark.
Alors, attention, deuxième extrait. C'est parti. Alors, tu as une petite idée?
Ah, toujours pas.
Allez, on va mettre trois propositions. Alors, tu as soit Jet Force, Gemini, soit Metroid Prime.
Ouais, de Rareware, bien sûr. Et vas-y, continue.
C'était un piège.
C'était le fameux jeu de Rareware.
Alors, sinon, il y a Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre.
En fait, Cryo lui donnait des propositions.
Cryo, il est en train de craquer.
Donc, Jet Force Gemini, Metroid Prime ou Conker.
Jet Force Gemini, je crois. C'est. Ouais, je crois, non ?
Ouais, c'est ça, bonne réponse.
C'est première bonne réponse.
C'est pas le jeu de course non, pas du tout. Non, je
pense
avec
que
un
c'est
autre
pas
truc,
du tout, mais au moins ça t'a donné un bon point, donc c'est tout ce qui compte.
Donc, voilà, un point sur deux, troisième extrait, c'est parti.
Voilà.
Alors, là, si t'as eu les oreilles attentives.
Si alors, bon, d'un côté, franchement, le.
Alors là, on va pas donner de proposition parce
le...
que.
Ouais, mais bon, c'est... le processeur sonore la voix de la.
La voix de Digit était.
C'est un jeu de combat, mais c'est pas ma génération du tout. Je sais pas. Franchement. Ouais, alors,
si t'as bien écouté, il y a une voix Digit un peu moisie qui a dit le
un
titre
peu moisie,
du jeu.
Quand même, ouais.
Qui a dit le titre du jeu. Donc,
on
peut-être...
l'a refait, peut-être, non.
Allez, on l'a refait, voilà, on passe.
Allez, on est gentil.
On passe le moment.
Ça se tente.
C'est bien pour toi. Bien.
Voilà, c'est j'ai facile. Envie de dire Dark Souls.
c'est ton. Non, vas-y, t'as un jeu, non que...
Je ne sais pas.
Ok, bah c'était Killer Instinct cette fois-ci.
Ah, bah voilà, alors, donc, il revient.
Et ouais, donc il était annoncé pendant la musique, mais bon, c'est vrai que c'était pas très facile
les voix
digit, on sent la bonne voix digitalisée quand même.
Voilà, la bonne voix digit un peu pourrie des années 90.
Ensuite, quatrième extrait, c'est parti. Alors, petite idée.
Alors, je vais dire une énorme erreur. Banjo-Kazooie.
Ah, c'était presque
pas loin,
ça.
T'es pas loin, il y avait un petit piège. Hein.
C'était Banjo-Tooie. Banjo-Tooie. Ah ouais, je suis complètement largué dans ce putain de game. Hein.
Oh, le piège.
Ah, c'est dommage parce que t'avais le bon feeling. En même temps, vu la musique du jeu, c'est assez reconnaissable.
Bon, on va faire... malheureusement, c'est perdu, hein, parce que trois mauvaises réponses.
On va faire
une bonne
pour
réponse.
Disons
voilà,
ça.
Allez,
pour l'honneur,
allez. Une petite idée ?
Donkey Kong 64.
Non, malheureusement, c'était... Conker's Bad Fur
Day.
Oh là là là, échec cuisant.
Bah écoute, pour quelqu'un qui s'y connaît pas énormément, je trouve que t'as eu des bons feelings quand
meilleur
même.
Meilleur que moi.
Voilà, meilleur que Cryo, donc.
C'est sûr, évidemment. Hein, c'est sûr que quand si on connaît pas vraiment les jeux rares, et vu que comme on l'a dit tout à l'heure, Malikou, c'est vrai que comme on n'a pas vraiment moyen de les redécouvrir aujourd'hui. Bah forcément, c'est sûr que c'est pas évident de retrouver les musiques, et puis alors avec la qualité de nos enceintes et Skype, j'imagine que c'est pas évident non plus. Hein.
Oui, enfin, il y a surtout beaucoup de mes connaissances qui pêchent sur le sujet, mais oui.
Et ce sera intéressant de voir, n'hésitez pas hein, dans les commentaires du podcast à mettre voilà, combien vous avez trouvé d'extraits, sans tricher, hein. Ne mettez pas forcément 5, oui, moi j'aimerais. Enfin voilà, n'hésitez pas effectivement à dire combien d'extraits vous avez retrouvé, et... toujours intéressant de voir voilà, si le jeu est trop dur ou pas, quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, tu reviens quand tu veux pour essayer de gagner un goodies. Hein.
Moi, c'est toutes les semaines, hein, je serai là en attente du nouveau podcast.
Oh, c'est super.
Écoute, super. Ben, merci à toi, en tout cas, hein, Alexis, d'avoir tenté ta chance. Hein.
Ben, merci à vous d'avoir
appelé. Ben, merci beaucoup à toi.
À bientôt.
Mais bientôt, ciao.
Salut.
À la prochaine.
Ça y est, messieurs, je pense qu'on a fait le deuil, finalement, alors, de Rareware avec ce podcast.
Voilà, ouais, on peut finir sur une musique mortuaire, si possible.
J'ai la larme à l'œil, hein, mais... C'est dommage.
Eh oui, tant de bons moments passés. Et pourtant, tout ça, c'est fini. Bon, alors, ce qui est pas fini, évidemment, c'est le podcast. Oh, la transition de ouf.
Voilà,
on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Ouais, bah, c'est les 1 an de la 3DS.
Ah ouais,
peut-être qu'on
va faire un petit bilan.
De toute façon, on va le faire, le bilan. Je sais pas si ça sera la semaine prochaine, mais ça sera bientôt, en tout cas.
Donc voilà, le message est passé. Bon, bah écoutez, bah, on a été très long, comme d'habitude.
Ouais, mais c'est une habitude. Puis ça plaît, apparemment, donc.
Ouais, ouais. Si vous êtes pas content, n'hésite pas à le dire. Hein. Bon, à mon avis, le problème, c'est que si vous êtes pas content, vous nous écoutez plus à ce moment-là. Vous avez déjà arrêté le podcast.
Et cette fois-ci, on va faire une super fin, les gars, ok? Pas comme la dernière fois.
Ah, oui, la fin ghetto, oui.
Ouais, ouais, ouais. Bon, alors on dit bien, tous en même temps.
À la prochaine.
Salut, à la prochaine.